Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bon réveil à tous, bonjour, bienvenue dans Apolline Matin, vendredi 7 août, avec toute l'équipe, Pierre Rondeau, notre économiste, Victor Pourchet, journaliste RMC, Charlène Villemer pour la météo, entre autres, et avec vous, on vous attend au 32-16. Victor est donc à mes côtés pour lire tous vos messages, notamment sur tous les sujets, sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424, également sur l'appli RMC Direct Studio à 7h10. En ce week-end de départ et de retour sur la route des vacances, gros plan sur le bioéthanol. Les ventes de boîtiers explosent pour un carburant vendu à 80 centimes d'euros le litre. Le patron de l'entreprise Flex Fuel est avec nous. La route et ses dangers. Le mois d'août reste le plus meurtrier de l'année et le porte-parole de la gendarmerie nationale est notre invité à 7h40. Faut-il prendre au sérieux les menaces faites par le FLNC contre les non-corses qui sont ces hommes armés qui profèrent ces menaces? Jacques Folleroux, journaliste au Monde et spécialiste de la Corse, est avec nous à 8h10. Et puis à 8h45, un projet de loi, enfin c'est pas un projet de loi, c'est une proposition faite pour taxer le tabac afin de financer la lutte contre les incendies. C'est une bonne ou une mauvaise idée, proposition faite par un député LR. Vous nous appelez au 32-16. Et Serdar Kaya, président de la Confédération des Buralistes, est notre invité. Bon réveil à tous. Dans un instant, le journal. Mais avant cela, la météo avec Charlène Villemer. Charlène, journée très calme, très ensoleillée. Et toujours très chaud à l'est.
Et toujours très chaud à l'est. En effet, 8 départements sont toujours en vigilance orange canicule aujourd'hui. On a 3 départements en risque très élevé, feu de forêt également, les Bouches-du-Rhône, le Var et puis le Vaucluse. Journée très ensoleillée avec cette instabilité qui se développe dans le sud-est, notamment sur le Mercantour et puis sur les crêtes des Pyrénées. Mais c'est plutôt côté espagnol, donc ça va pas trop nous concerner. Cet après-midi en Corse, on aura de la pluie qui va tomber. Pluie assez forte, mais assez brève. Et puis il y a surtout ce vent qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, le Mistral et puis la Tramontane qui vont souffler assez fort. 60 km/h pour la Tramontane et 70 pour le Mistral. Les températures, ça reste très chaud, donc dans le sud-est entre 31 et 37 degrés. La maximale, ce sera pour Perpignan avec 37 et puis beaucoup plus frais près des côtes de la Manche, 21 à Cherbourg.
Merci Charlène. RMC, il est presque 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Encore un incendie, cette fois dans l'Aude, rapidement fixé dans le massif des Corbières, largement meurtri déjà l'été dernier. Et si l'on finançait la lutte contre les incendies en taxant les industriels du tabac, c'est la proposition d'un député. Des cambriolages en hausse en juillet, près de 6% d'augmentation par rapport à l'an dernier, c'est une information BFM TV. Et puis les fédérations sud-américaines de football tournent le dos à Gianni Infantino, le président de la FIFA, en revanche largement soutenu par la Confédération africaine.
Clara, dans l'Aude, l'incendie qui s'est déclaré hier a été fixé dans la soirée.
120 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour surveiller toute potentielle reprise de feu. Il est parti d'un accident de la route aux alentours de 16h hier au niveau de la commune de Montserret, près de Narbonne. 100 hectares parcourus par les flammes, 2 villages évacués. Mathias Luguin, un incendie dans le massif des Corbières, déjà très durement touché l'été dernier.
Oui, ces flammes ont ravivé le souvenir douloureux de l'ogre des Corbières. Un an après, presque jour pour jour, l'incendie avait ravagé 17 000 hectares en 3 semaines et sinistré de nombreuses communes aux alentours. Camille a immédiatement réagi dans sa pépinière à Saint-André de Roquelongue.
On a de suite pris peur, paniqué et on est vite allé là-bas pour tout mouiller et éviter le pire. C'est des angoisses parce que l'ogre des Corbières était juste de l'autre côté l'année dernière. On s'est dit c'est pas possible quoi, on peut pas de nouveau tout perdre comme ça.
Confinés pendant environ 2 heures, les habitants n'ont eu d'autre choix que d'assister impuissants à l'intervention des pompiers. Un combat contre les flammes qui a sidéré Sébastien.
On a eu les 4 canadaires d'un coup. Honnêtement, ça nous a énormément rassurés. C'était impressionnant. On avait un hélico toutes les 2 minutes, des avions qui passaient dans tous les sens. On se sentait protégés, quoi. Donc, plutôt content. Après ce stress, on va se faire un bon petit repas arrosé.
Une vingtaine d'habitations a pu être protégée hier. Et malgré une évolution positive, la vigilance reste de mise dans le massif très sec cet été encore.
Beaucoup de vigilance aussi dans le Var où le risque de feu de forêt est très élevé. Hier, plusieurs reprises de feu ont pu être contenues. Les pompiers se préparent à une nouvelle journée très compliquée, explique Éric Groin, directeur du SDIS du Var, le service départemental d'incendie et de secours.
Le travail a été de sécuriser toutes les zones avec des établissements de grande longueur. Ça, ça a plutôt bien fonctionné. Ces établissements sont toujours en place de façon à pouvoir éteindre des reprises ou des fumerolles. Ça sera exactement la même journée. Il faudra être encore vigilant, on se méfie du vent d'ouest, qui est un vent où l'hygrométrie est tombée quand même très bas. Et donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour des réinflammations. On a toujours les moyens aériens disponibles. Et on a encore beaucoup de sapeurs-pompiers qui sont encore présents et qui peuvent intervenir. On est raisonnablement optimiste, mais la vigilance est de mise.
Et dans la Drôme, l'incendie est bientôt circonscrit. Selon les pompiers, ils font face encore à quelques réactivations de feu. 240 hectares partis en fumée.
La lutte contre les incendies qu'un député voudrait financer, Clara, en taxant les industriels du tabac.
C'est la proposition de loi que compte déposer le député Les Républicains de l'Isère, Yannick Neuder. L'ancien ministre de la Santé veut que les fabricants prennent leur part alors que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et qu'ils sont souvent déclenchés par des mégots. Victor Girard, ça fait déjà beaucoup débat.
Si la Confédération des buralistes reconnaît l'urgence d'agir face à la multiplication des incendies,
c'est inacceptable aujourd'hui de voir des gens jeter des cigarettes par la fenêtre.
Son président départemental de Gironde, Antoine Béras, estime que le député se trompe de cible en voulant taxer les industriels.
Il faut s'adresser aux gens qui sont irresponsables. Quand quelqu'un prend l'autoroute en sens interdit, on n'attaque pas le constructeur. Pourtant, il y a des morts qui sont causées. Donc, c'est pas une fiscalité punitive qu'il faut adapter pour résoudre tous les problèmes.
Une nouvelle fiscalité payée par les industriels du tabac qui rapporterait 350 millions d'euros par an à l'État, mais qui s'ajouterait à une éco-contribution déjà en vigueur, destinée à financer des actions contre les jets de mégots notamment.
Non mais tout ça, c'est rien au regard de ce que ça coûte pour l'ensemble de la société.
Répond Loïc Josserand, président de Contrefeu, l'Alliance contre l'industrie du tabac, qui soutient la proposition de loi.
Mettre cette industrie devant ses responsabilités, je pense que c'est une très bonne chose. On est dans la logique de pollueur-payeur. Ne faisons pas peser sur le fumeur, c'est le producteur qui est à l'origine des problèmes.
En cas d'adoption par les parlementaires, la proposition de loi sur la taxation des industriels du tabac entrera en vigueur en 2028.
Du monde sur la route. Aujourd'hui, c'est orange dans le sens des départs selon Bison Futé pour le Nord, le Grand Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Circulation difficile également dans le sens des retours pour le quart sud-est. Demain, c'est rouge partout en France.
Et en pleine vacances, les cambrioleurs se frottent les mains.
Les cambriolages ont augmenté en juillet par rapport à l'an dernier pour les commerces et les logements. C'est une information BFM TV. Thomas Palmier, hausse de 5,8%.
Ce chiffre englobe les cambriolages de logements, résidences principales et secondaires, ainsi que les commerces. Dans le détail, les services de police et de gendarmerie ont constaté 1519 cambriolages supplémentaires le mois dernier, en comparaison avec juillet 2025. Et les logements sont particulièrement ciblés. Les services de l'État ont comptabilisé 18 665 domiciles cambriolés en juillet 2026, contre 17 324 l'année dernière sur la même période. Mais dans son dernier bilan chiffré, révélé par nos confrères de BFM TV, le service statistiques du ministère de l'Intérieur tempère. Il y a bien une hausse en juillet 2026, mais la tendance du nombre de cambriolages est à la baisse depuis début de l'année. Moins 1,2% de cambriolages entre janvier et juillet par rapport à la même période l'an dernier.
Explication de Thomas Palmier. Une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste après une vidéo du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, qui a organisé une conférence de presse clandestine relayée par le seul média invité, Corse Matin, dans laquelle il menace les non-corses qui s'installent sur l'île, Pierre Bazin. Conférence de presse pour rejeter aussi le processus d'autonomie de l'île.
Oui, sur ces images, 15 hommes apparaissent tout habillés de noir, cagoulés et munis d'armes lourdes devant un drapeau du FLNC. Avec le ton robotique d'une voix modifiée, l'un des membres dénonce le projet de loi sur l'autonomie de la Corse, le qualifiant de mascarade, et critique tous ceux qui soutiennent ce projet, mais aussi et plus largement la caste des groupes financiers corse ou encore les collectifs anti-mafia. Et il n'hésite pas à proférer des menaces de mort à destination des Français qui résident dans l'Hexagone, en pointant, je cite, l'arrivée massive de près de 5000 étrangers, dont une grande majorité de Français. Ne vous sentez pas en sécurité sur notre territoire national, lance la voix robotique. Les autorités prennent cette vidéo très au sérieux, qui démontre, selon une source sécuritaire, la capacité de ce groupe à se procurer des armes et à mener des actions violentes.
Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. Un deuxième narcotrafiquant proche de la DZ Mafia interpellé en Algérie, Rachid Djea, considéré comme l'un des parrains de la cité de la Castellane à Marseille. Avant-hier, on a appris l'arrestation de Mehdi Laribi, considéré comme le chef présumé de l'organisation criminelle. Trois candidats à la reprise de Duralex, ils ont déposé leur dossier auprès du tribunal de commerce d'Orléans, alors que la verrerie est placée en redressement judiciaire. Parmi les candidats, il y a l'entrepreneur qui avait racheté Tupperware l'an dernier. Le délai pour déposer une offre est prolongé jusqu'au 11 septembre.
Peu importe les excuses de la FIFA, l'UEFA a dit avoir perdu confiance en Gianni Infantino.
L'instance européenne du football maintient sa menace de boycott des compétitions si elle n'obtient pas l'assurance que de tels nouveaux projets ne voient pas le jour. Projet avorté, vous le savez, d'ouverture à des investisseurs privés. Nicolas Pelletier, hier, c'est la Confédération sud-américaine qui a pris ses distances.
Oui, pour la première fois, cette confédération très proche de Gianni Infantino a publié un long communiqué pour dénoncer, je cite, des décisions unilatérales répétées de la FIFA et d'ajouter le football passe avant tout. La confédération sud-américaine menace même de ne pas renouveler son soutien à Gianni Infantino lors des élections à la présidence de la FIFA en mars 2027. La pression est forte sur les épaules du président de l'instance et son avenir pourrait se jouer dès la semaine prochaine. La fronde devrait s'organiser lors d'une grande réunion de l'UEFA à l'instance européenne en Autriche. Seule éclaircie pour Infantino, le soutien sans faille de la Confédération africaine. Après un comité exécutif hier au Caire en Égypte, l'Afrique a décidé de soutenir à l'unanimité le patron de la FIFA.
Nicolas Pelletier, une deuxième recrue pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale officialise l'arrivée du jeune international français Magnès Akliouche. Il arrive de Monaco et signe pour 5 ans, montant total 50 millions d'euros. Le Tour de France Femmes s'attaque à un monument aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, les coureuses à l'assaut du mythique Mont Ventoux. Pour Stéphane Delcourt, directeur FDJ United Suez, tout peut arriver dans ce col.
Ouais, ça représente tout ce qu'on fait depuis le début du Tour de France Femmes, toujours des arrivées mythiques, toujours des moments importants. Je pense qu'il y aura quand même les conditions climatiques qui vont beaucoup influencer la montée du Ventoux. On lance beaucoup de vent, le vent peut changer très vite de direction en montagne, donc c'est ça qui va être le plus important, ce sera le premier long effort. C'est un Tour de France difficile mais très punchy, avec des montées quand même largement inférieures à ce qu'on va avoir, donc on peut avoir des grosses surprises.
Une étape à vivre évidemment sur RMC. Hier, c'est la Mauricienne Kim Lecourt qui a remporté la 6e étape à Tournon-sur-Rhône. La Suissesse Marlène Reusser, toujours maillot jaune.
Merci beaucoup Clara. Le prochain journal, ce sera à 7h30. Nous nous rendons tout de suite au 32-16. Pour retrouver Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Mathieu, vous nous appelez depuis chez moi, depuis Lille, dans le Nord. Vous faites quoi dans la vie, Mathieu?
Kiné,
très bien. Et vous voulez nous parler de cette proposition faite par un député LR, ex-ministre de la Santé. Son idée, c'est de taxer les industriels du tabac pour financer la lutte contre les incendies. Vous en pensez quoi ?
Bah, je trouve que c'est toujours la solution de facilité. Dès qu'il y a un problème, la seule idée de tous ceux qui nous gouvernent, c'est de taxer. Il y a un problème, on taxe. Il y a un problème, on taxe. Il y a un problème, on taxe.
On peut peut-être pas exclure totalement la responsabilité des industriels du tabac, en sachant qu'un certain nombre d'incendies sont provoqués par des mégots qui sont jetés. Il y a une étude qui est parue, Vinci Autoroute, je crois, la semaine dernière, qui nous disait qu'il y a encore un fumeur sur cinq ou deux fumeurs sur cinq, je ne sais plus, je crois que c'est un fumeur sur cinq, c'est quand même énorme, qui continue, qui admet jeter son mégot par la fenêtre.
Ouais, mais tous les très gros incendies qui ont eu lieu dans les Landes et dans le Var, c'est des zones qui sont inaccessibles en voiture. Donc c'est des gens qui viennent avec des bidons d'essence, qui allument. Moi c'est ce que je disais à c'est Clément, je pense.
Au standard, ouais, tout à fait. Ouais.
Moi je pense qu'à un moment il faut peut-être dissuader en disant que les incendiaires volontaires qui sont pris en flagrant délit, on écourte les jugements, on met 15 ans en prison sans révision de peine, et au moins les gens sont prévenus. Non mais vous voyez pas le nombre de milliers de pompiers qui sont les gens qui sont décédés, les gens qui sont évacués, les gens qui perdent leur voiture, leur maison. À un moment moi je suis désolé, moi je préfère qu'il y ait 2-3 personnes qui prennent 15 ans de prison sans révision de peine plutôt que 350 000 personnes qui sont emmerdées pendant des semaines et des semaines.
Bon, malgré tout, on le sait, on en a encore parlé hier matin sur RMC, RMC Story, les pompiers, ils ont besoin de moyens, il faut de l'argent. Est-ce que cet argent, vous préférez qu'on le prenne sur nos impôts ou qu'on fasse payer un petit peu les industriels?
Bah moi, je préférais surtout qu'on mette pas 50 millions pour refaire l'entrée de l'Assemblée nationale, par exemple.
Oui, on en a parlé hier, aujourd'hui.
À un moment, c'est toujours des questions de priorité. Hein. Mmh. Toujours des questions de priorité.
Vous êtes fumeur ou pas, Mathieu?
Non, pas du tout. Non.
Ah, même pas. Non. Bon. Même pas. Bon, bah, en tout cas, on a bien compris votre position, Mathieu, et vous pouvez continuer à nous appeler au 3216, également à réagir sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. Bonne ou pas cette idée d'un député LR sur l'idée donc de taxer les industriels du tabac pour financer la lutte contre les incendies. Vous nous appelez au 3216 RMC. Il est 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et je parlais à l'instant du WhatsApp RMC, vous êtes déjà nombreux à réagir, Victor.
Et notamment sur cette proposition de loi à taxer les industriels du tabac pour lutter contre les incendies. Des gens qui ne sont pas d'accord avec Mathieu, tiens. David, qui nous dit, très bonne idée, pour aller un peu plus loin, il faudrait augmenter le prix des cigarettes. Alors, écoutez-nous bien, amis fumeurs, parce que David propose d'aller jusqu'à 25 à 35 euros le paquet, pour être plus dissuasif. Christian, lui, nous dit, quand on sait que les mégots détruisent les forêts, quand on sait qu'ils contaminent des millions de tonnes d'eau, que les cancers coûtent des milliards d'euros à l'État, on se demande pourquoi la vente de cigarettes n'est tout simplement pas interdite. On rappelle qu'en Grande-Bretagne, pour toute une génération, ça a été évidemment étudié. Et puis Yannick, lui, va dans l'autre sens. Taxer les industriels, ça ne va avoir qu'un seul effet, l'augmentation des prix, l'augmentation donc de la vente à la sauvette, et c'est la mort annoncée des buralistes.
Mais justement, 8h45, nous serons avec l'un des représentants des buralistes sur RMC, RMC Story, qui est assez en colère, vous l'entendrez. Allez, c'est une info RMC. Conséquence de la flambée du gasoil et de l'essence, le nombre de boîtiers bioéthanol posés sur vos voitures a doublé en un an. Combien ça coûte? Tous les véhicules sont-ils compatibles? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous êtes déjà passé au bioéthanol? Vous nous appelez au 3216 et Jérôme Loubert, le patron de Flex Fuel, le leader du secteur, est avec nous dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Bon réveil à tous, RMC, 7h15. Le gazole, de nouveau, au-dessus des 2,20€ le litre en moyenne. Pierre Rondeau, notre économiste qui est à mes côtés, confirme le samplon 95, le samplon 98 qui dépasse allègrement les 2€. Les automobilistes cherchent à trouver des solutions pour rouler moins cher. Et c'est une info RMC ce matin. Les poses de boîtiers de conversion au bioéthanol ont doublé en un an. Le bioéthanol, c'est 80 centimes en moyenne le litre à l'heure actuelle. 500 boîtiers installés en juillet, là, dernier, 2026, contre 250 en juillet 2025. Bonjour, Jérôme Loubert.
Bonjour, Rémi.
Merci d'être avec nous, Jérôme Loubert. Vous êtes le directeur général de Flex Fuel, le leader français de la fabrication de boîtiers homologués, boîtiers bioéthanol. Ces chiffres, c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu, surtout pour un mois de juillet. Habituellement, on a des chiffres qui baissent pendant l'été. Les préoccupations sont ailleurs, mais les départs en vacances sont très coûteux. La route, évidemment, est très coûteuse lorsqu'on doit faire le plein, en plus sur l'autoroute. Et donc, c'est la première fois que les ventes flambent au mois de juillet, puis au mois d'août.
Comment vous l'expliquez? Pourquoi cet engouement-là en ce mois de juillet?
Mais écoutez, vous parliez avec votre auditeur précédemment qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait une taxe. L'éthanol, c'est le contraire. Un problème majeur qui est le pouvoir d'achat et le prix du carburant. L'éthanol, c'est une solution à bas prix, sans taxe. Et donc, c'est un carburant alternatif, écologique, qui permet de faire entre 1000 et 1500 euros d'économie tous les ans.
Vous arrivez à suivre dans vos ateliers la demande?
Oui, parce qu'on a connu... On a connu une très forte augmentation des ventes en 2022. C'était malheureusement déjà un conflit international avec l'Ukraine. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un conflit majeur intervient et a des effets sur le prix du carburant, la solution éthanol revient. Les gens se rappellent que cette solution est là. Les médias en parlent, comme vous aujourd'hui. Et donc, on a une exposition qui nous permet de reparler de ce carburant français, ce carburant à 80 centimes d'euros, vous l'avez dit, et ce carburant transformé les véhicules que les Français ont déjà, pas besoin de réinvestir sur un nouveau véhicule, c'est disponible pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, si tant est que ce soit essence ou hybride essence.
Justement, on va être très concret, pas trop technique, mais très concret. D'abord, est-ce que tous les véhicules sont compatibles?
Alors, la très grande majorité, 90-95% des véhicules essence ou hybride essence.
D'accord, très bien, ça c'est clair. Ça se passe comment? Je fais comment?
Je me rends dans un garage partenaire, donc je dois consulter la carte des partenaires sur le site flexfuel-compagnie.com ou roulerpascher.com, c'est encore plus simple. Et je dois faire un devis chez un professionnel, je dois m'assurer que mon véhicule est compatible et en bon état évidemment avant la transformation.
Ah bah on parle de devis, combien ça coûte ?
Ça coûte entre 500 et 1000, 1200 euros selon les véhicules les plus techniques. La grande majorité des véhicules se trouveront aux alentours de 700 à 800 euros.
Tout compris ?
Tout compris, installation, boîtier, homologation et une visite de contrôle qui vous permettra de vérifier que tout est parfaitement conforme.
D'accord. Et ensuite, ça se passe comment ? Une fois que j'ai mon boîtier bioéthanol qui est installé sur mon véhicule, la pompe, tout simplement, et c'est les pompes bioéthanol, il y en a partout ?
Oui, bien sûr, c'est un simple boîtier électronique qu'on vient ajouter sur le véhicule. Il n'y a pas de changement de réservoir comme avec le GPL. Hein. Il n'y a pas besoin d'un nouveau réservoir, pas besoin d'une grosse transformation. Et ensuite, je fais le plein dans l'une des plus de 4000 stations en France, c'est-à-dire plus d'une station sur trois, qui va me permettre de faire le plein à 80 centimes, contrairement à 1,99€ ou 2€ en ce moment.
D'accord, ouais, c'est très... Mais maintenant, vous nous dites de passer par un garage homologué, parce que il faut pas faire ça soi-même. Je sais qu'il y a des offres, parfois, on vous dit, on vous vend sur Internet, notamment des boîtiers, c'est facile à installer, etc. Mais non, faut vraiment faire attention.
C'est indispensable de s'équiper avec du matériel homologué, sinon votre véhicule risque d'être bloqué en contrôle technique, ou pire, ne plus être assuré.
D'accord, et en prime, la pose, c'est pareil, c'est la pose, il faut être garanti que ça soit fait par un garagiste homologué, parce que j'imagine qu'il y a une garantie d'installation aussi.
Bien sûr, une garantie d'installation, une garantie du produit pendant 2 ans, et il faut que ce soit réglé par un professionnel de l'automobile qui est en capacité de vérifier votre véhicule et de faire la transformation dans les règles de l'art.
Aujourd'hui, il y a 11 millions, si je me trompe pas, de véhicules qui seraient compatibles en France.
Tout à fait,
il y en a 400 000 qui sont passés au bioéthanol. Ça fait quand même pas beaucoup sur 11 millions.
Mais vous avez raison, c'est une solution qui malheureusement, contrairement aux véhicules électriques ou autres qui sont très forcément aidés par l'État, qui n'est pas très mise en avant. Et donc c'est une solution alternative dont il faut plus parler, je ne vous le fais pas dire.
Bon, on ne fait pas ce qu'on dit dans notre langage, on ne fait pas du pubi-reportage, on n'est pas là pour vous faire de la pub, mais voilà, c'est juste, on essaie d'être concret. Et David est avec nous au 3216. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre au 3216 sur RMC, RMC Story. David, vous êtes dans le Lot-et-Garonne, c'est ça ?
Exactement, tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie ?
Alors, je suis commercial, voilà, sur plusieurs départements.
Donc, beaucoup de routes ?
Beaucoup de routes, à peu près 75-80 000 km par an.
Ce qui est pas négligeable. Et vous êtes passé au bioéthanol ?
Tout à fait, voilà.
Pour votre voiture personnelle ?
Alors non, pour mon véhicule de fonction, justement, voilà. Ce sont des véhicules qui sont équipés d'origine éthanol.
D'accord.
Voilà, donc je roule avant avec des diesels, qui étaient le plus économique par rapport au kilométrage. Tout simplement, j'ai réduit par deux ma facture de carburant mensuelle. Donc de 750€ de gasoil par mois, je suis passé à 300€ en éthanol.
Ouais, ça fait une sacrée différence.
Une grosse économie, tout à fait.
Ouais, ça fait une sacrée différence. Et pas de changement sur
pas de changement. Ça
à part l'installation du boîtier.
Alors même pas, parce que certaines marques, je ne sais pas si je peux citer la marque, sont déjà équipées d'origine 100% éthanol.
D'accord. Voilà, Jérôme Loubert, un témoignage qui va dans votre sens. Jérôme Loubert, une dernière question. Est-ce que, une fois que j'ai installé un boîtier bioéthanol, bon, finalement je change d'idée, est-ce que je peux revenir en arrière ?
Alors oui, c'est possible, mais normalement, une fois que vous aurez fait le plein pour la première fois à la station et que vous verrez les litres défiler plus vite que les euros, vous aurez une sainte horreur du carburant sans plomb et vous ne reviendrez pas en arrière.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à David d'avoir été avec nous au 3216. Merci Jérôme Loubert, directeur général de Flexfuel, leader français de la fabrication de boîtiers homologués. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On va parler des duos iconiques de la chanson francophone. Je peux notamment vous dire qu'il y aura du Céline Dion. Et puis le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Bon, on vient de parler des prix des carburants qui s'envolent. Et il y a autre chose qui prend en ce moment, ce sont les taux d'emprunt.
Les taux d'emprunt, les taux des crédits immobiliers. Oui, devenir propriétaire, c'est toujours plus galère.
Allez, on se retrouve dans 40 secondes, c'est précis, sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 7h23.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. Ça ne va pas rassurer Pierre, le marché immobilier, mais les taux de crédit repartent à la hausse.
Oui, malheureusement, selon les dernières données publiées par la Banque de France et relayées par l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen accordé aux nouveaux crédits immobiliers a atteint hors assurance 3,27%. 3,27%, il faut revenir à février 2025 pour retrouver un taux comparable. Et surtout, oubliez les périodes très fastes entre 2018 et 2022, lorsque les taux moyens de crédit tournaient autour des 1,5%. Aujourd'hui, si on rajoute tous les frais annexes, assurances, frais de garantie, courtier, on se retrouve avec un taux moyen d'emprunt sur 20 ans de 3,97%. Donc sur 20 ans, pour rendre compte, c'est 45 000 euros de coûts tous les 100 000 euros empruntés. Pour vous donner un exemple, si vous voulez acheter une maison par hasard à Saint-Malo, à 350 000 euros, cela vous coûtera au total 507 500 euros, dont 157 500 euros pour le seul coût des intérêts.
Je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé de te payer un café ce matin. Comment Pierre, expliquer cette augmentation ?
Tout simplement la détérioration financière de la France. Les banques se financent via des emprunts calculés sur le taux des obligations de la France. Pour faire simple, le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés. Or, si la situation économique de la France se détériore, si son déficit augmente, les investisseurs perdent confiance, son taux d'emprunt augmente, ce qui est précisément le cas. 107 milliards d'euros de déficit depuis janvier 2026. Et ça se répercute directement sur les taux des banques et donc sur le taux des crédits immobiliers.
Avec des conséquences négatives à prévoir.
Ah oui, malheureusement, une hausse des taux sur les crédits immobiliers, c'est d'abord une capacité d'emprunt en baisse et donc un ralentissement sur les marchés immobiliers. Ensuite, si le coût de l'emprunt augmente, c'est donc plus d'argent consacré au remboursement du crédit et moins à autre chose, à la consommation de manière générale, et donc une baisse de la demande globale. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, puisque d'après l'Observatoire Crédit Logement CSA, les sommes empruntées ont culminé à 13,2 milliards d'euros en juin, soit un niveau équivalent à 2022. Reste à savoir si cela va durer.
Merci beaucoup Pierre. Pierre Rondeau, on se retrouve après le journal de 8h avec un chiffre qui baisse cette fois. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ce sont les ventes de vélos. Mais tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. Arthur Chevalier en chanson ce matin.
On l'entend, c'est cette nouvelle chanson dévoilée cette nuit de Céline Dion. Elle est sortie donc sur toutes les plateformes d'écoute cette nuit. Une chanson qui n'a pas été écrite par n'importe qui, puisque c'est un titre de Jean-Jacques Goldman, à qui Céline Dion doit déjà beaucoup.
Et oui, elle lui doit même en partie d'être devenue une star en France. Au début des années 90, Céline Dion perd sur le marché américain, mais en France, elle débute tout juste. Alors, elle est un peu connue, mais rien à voir avec aujourd'hui. Et justement, le premier qui la repère, c'est Jean-Jacques Goldman, en 1994. Il l'invite à chanter avec lui pendant un concert des Enfoirés, un duo où ils reprennent un de ses tubes qui s'appelle Là-bas.
Et c'est le début d'une très longue et belle collaboration.
Un coup de foudre artistique qui va se traduire très vite par un album que Jean-Jacques Goldman va écrire pour Céline Dion. Cet album, il sort en 1995. Ça s'appelait 2DEUX, que des tubes avec cette chanson mythique. Un succès phénoménal, 12 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est le disque de langue française le plus vendu de tous les temps.
Et pour vous, c'est le couple artistique le plus légendaire de la chanson française?
Alors oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et pas des moindres. L'histoire de Charles Aznavour et Edith Piaf ressemble d'ailleurs un peu à celle de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. En 1946, Edith Piaf est déjà une énorme star. Aznavour, lui, a 22 ans, il commence sa carrière et il va avoir la chance de sa vie puisque Piaf l'entend chanter pendant un concert. Elle l'adore, elle l'invite à dîner. C'est le début d'une amitié et aussi un coup d'accélérateur pour la carrière d'Aznavour.
Charles Aznavour devient même la personne la plus proche d'Edith Piaf.
Et oui, il la suit partout, ça devient un peu son homme à tout faire, chauffeur, réparateur, secrétaire, mais surtout, Aznavour va lui écrire des chansons mémorables, dont un chef-d'œuvre en 1951.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux.
Et leur amitié allait loin. Une anecdote le prouve à Pauline. Edith Piaf trouvait qu'Aznavour avait un gros nez, beaucoup trop gros nez pour faire carrière. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va carrément lui payer une opération de chirurgie esthétique pour qu'il se le fasse refaire. Et oui, c'est Piaf qui a payé ça.
Bon, et puis bien sûr, il y a Serge Gainsbourg et France Gall.
Là encore, une relation artistique intense qui commence en 1963. Gainsbourg est déjà une icône. France Gall est une jeune chanteuse qui fait danser la France des yéyés. Gainsbourg se met à lui écrire des chansons et ça va très bien fonctionner, puisqu'en 1965, elle remporte l'Eurovision avec un morceau de Gainsbourg, Poupée de cire, Poupée de son.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin.
RMC 7h28, dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Bouidz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le ras-le-bol des habitants des Vosges face aux nuisances sonores des locations saisonnières. Les habitants de la Bresse réclament des zones de quiétude. Le climat bouleverse le calendrier des vendanges. Elles ont déjà débuté dans de nombreuses régions. Et un saut dans le vide aujourd'hui avec la Tour Eiffel en ligne de mire pour les meilleurs plongeurs européens.
Clément, les locations saisonnières, une nouvelle fois sous le feu des critiques.
Le calme n'est plus qu'un lointain souvenir dans les Hautes-Vosges. Les habitants de la Bresse sont à bout, confrontés à des locations saisonnières et donc des fêtes incessantes, des incivilités. Et certains réclament désormais des zones de quiétude. Notre correspondante dans la région, Lucille Pascanet, s'est rendue sur place pour RMC.
Sur la banderole rouge qu'installe Annick Vaxeler à l'entrée de son lotissement, en grandes lettres, zone de quiétude, résident permanent. Un message pour les locataires des grands chalets juste à côté, parfois trop fêtards et souvent irrespectueux.
On leur prévient qu'ils sont à côté de maisons avec des résidents permanents et qu'on souhaite vraiment qu'ils utilisent leur location de manière vertueuse.
Annick vit ici depuis une vingtaine d'années, mais depuis 2018, elle ne dort plus.
Bamboula, 23, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. C'est des nuits compliquées pour aussi les enfants. Ça impacte fortement notre santé. On arrive à un point où c'est difficilement supportable.
Il y a 2 ans, les riverains ont fondé un collectif et cette semaine, ils ont échangé avec le maire Pierre Mangin, mais aussi avec le député des Vosges et d'autres édiles de communes touristiques alentour.
Depuis quelques années, on est passé à un peu plus de 50% de résidences secondaires et moins de 50% de résidences principales. Voilà, préserver ces équilibres, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Le premier pas, c'est maintenant de mesurer les nuisances pour formuler ensuite des propositions et aboutir peut-être à de nouvelles règles.
L'incendie dans l'Aude est fixé.
Un an après le feu ayant ravagé le massif des Corbières, un incendie s'est déclaré hier après-midi sur la commune de Montserré, près de Narbonne. 100 hectares ont été parcourus par les flammes. Le maire de Saint-André-de-Roquelon, Jean-Michel Folk, se dit rassuré, mais pas complètement serein.
C'est, on va dire, le soulagement, parce que, du bois a brûlé, mais à quelques mètres près ou à quelques minutes près, il aurait pu y avoir un lotissement entier qui brûle. Les risques qu'il y avait par rapport aux habitations sont effacés, donc a priori, on est plutôt bien. On fait tout ce qu'on peut en termes d'éducation, en termes d'interdiction d'accès, en termes de surveillance. Mais bon, c'est vrai que c'est très difficile de faire respecter les obligations légales de débroussaillement. On va dire que c'est un avertissement sans frais. Malheureusement, on sait qu'un jour, il y aura le feu.
Sébastien Lecornu attendu avec plusieurs ministres en Gironde le 17 août prochain. Objectif évoquer la reconstruction des zones sinistrées par l'incendie qui a brûlé 42 000 hectares.
Clément, c'est la conséquence des très fortes chaleurs de ces dernières semaines du dérèglement climatique. Le raisin mûrit de plus en plus vite.
Et les vendanges ont déjà commencé en Champagne, en Alsace ou encore en Gironde. Du jamais vu en France, certains vignerons sont donc obligés de demander une dérogation pour cueillir le raisin plus tôt. Bernard Farge, co-président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
Les vendanges 2026 vont être caractérisées par une précocité pratiquement jamais connue dans tous les vignobles français. Et cette année, on a une précocité de pâtiment 15 jours à peu près partout. Donc 2 semaines, c'est beaucoup. Nous voyons qu'avec les différentes canicules, la sécheresse qui est très présente dans la plupart du vignoble, les vignes poussent plus tôt, les vignes ont des cycles végétatifs plus réduits. Et donc tout ça, c'est évidemment lié au changement climatique.
Les vacances font le bonheur des cambrioleurs. Hausse de 5,8% des cambriolages de logements et de commerces en juillet par rapport à l'année dernière, selon BFM TV. Pour les habitations, la hausse est encore plus forte, plus 7,7%. En 1 an.
Une nouvelle démonstration de force du FLNC qui fait réagir la justice.
Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête après les menaces proférées par l'organisation séparatiste. Elle rejette en bloc le projet d'autonomie de Lille, parle de mascarade, demande aux Français non-corses de rester chez eux. La vidéo de leur conférence de presse a été relayée mercredi soir par Corse Matin et a fait également réagir les élus, Sonia Gobry.
Inquiet, André Pacou, délégué de Corse de la Ligue des droits de l'homme, craint une nouvelle spirale de violence.
Ça nous inquiète dans le sens où on risque d'avoir une reprise d'attentats, notamment par exemple des résidences secondaires, et puis après de réactions de l'antiterroriste de répression. Ce cycle-là, on le connaît très bien. On sait très bien que c'est un enfermement politique.
Mais il estime que l'État a aussi sa part de responsabilité en n'écoutant pas suffisamment, selon lui, les revendications. Le député autonomiste de la Haute-Corse, Michel Castellani, acquiesce.
Si nous prêchons dans le désert, après ça juste
justifie en quelque sorte les réactions comme celles du FLN.
Quant aux menaces du groupuscule indépendantiste,
je prends acte, moi je ne me permets pas ni de juger ni de condamner.
Michel Castellani a voté pour le projet d'autonomie de la Corse. Il est donc visé quand le FLNC s'en prend, je cite, aux manipulateurs haut placés accusés de duper le peuple corse.
Je ne suis ni manipulateur, ni haut placé, ni un dupeur de personne. Je suis un pauvre député. J'essaie de tirer le maximum de ce que je peux de compétences pour mon peuple, pour sa langue, pour ses intérêts économiques.
Il dit préférer la politique des petits pas, le combat démocratique au combat armé.
Faut-il craindre ces menaces du FLNC? À 8h13 sur RMC, nous serons avec Jacques Folleroux, journaliste au Monde, spécialiste de la Corse.
Le chômage repart à la hausse en France. Son taux augmente de 0,2 points à 8,3%, son plus haut niveau depuis 2020, annonce ce matin à l'INSEE. Organisez-vous si vous avez un vol EasyJet. Aujourd'hui, c'est le début de la grève des hôtesses et stewards. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Des perturbations et des annulations sont donc à prévoir. Ce mouvement doit durer un mois.
Rien à voir avec les avions, mais ce soir, levez les yeux au ciel.
Les Nuits des Étoiles démarrent pour 3 soirées exceptionnelles. Près de 500 rendez-vous partout en France pour observer les planètes, galaxies, étoiles filantes avec l'aide de 2000 passionnés mobilisés pour faire rêver les petits et les grands. Delphine Nguyen, vice-présidente de l'Association française d'astronomie.
Voilà, quand on peut montrer aux gens la première fois qu'ils regardent la Lune ou Saturne, il y a une émotion. Les gens regardent en disant « Oh !» et partager ça avec les gens, c'est fabuleux. Et ça vous redonne la dimension de votre propre personne, de ce que vous êtes, de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire quelque chose un peu perdu sur ce vaisseau qu'est la Terre, qui circule dans l'univers. Et je pense que c'est un peu ce vertige qui est en même temps enivrant, parfois un peu terrifiant. Et c'est ça qui fait vibrer les gens.
Une carte postale grandeur nature pour les plongeurs au championnat d'Europe de natation.
Ils vont évoluer face à la Tour Eiffel, l'un des plus beaux décors du monde. Hein, mais Clément Brossard, ce cadre spectaculaire demande aussi quelques adaptations.
Le métro ralentit quand Carole, résidente parisienne, aperçoit une plongeuse en plein entraînement.
Ah mais oui, là, ouais, c'est impressionnant.
Ouais. Ex-plongeur de haut vol, Hassan Mouti a participé à l'organisation de l'épreuve.
On a eu plusieurs réunions avec la RATP, donc on a dû travailler tant de nuit dessus justement pour avoir cette partie haute, pour être sécurisé. Pendant l'événement, le métro passe au ralenti, comme ça on évite d'avoir des petites secousses qui pourraient un peu déstabiliser le plongeur.
Un sentiment étrange pour l'athlète suisse Morgan Herculano.
Il y a quelques éléments auxquels je ne m'attendais pas trop. Le métro derrière, c'est assez atypique. Ouais, le bruit, le mouvement... Et puis juste, je suis en maillot de bain, il y a le métro derrière qui passe, donc c'est un peu unique. Ouais.
Un tel cadre, Madeleine Bayon, seule française en compétition, en rêvait.
C'est magnifique. Honnêtement, c'est une vue, j'en ai pas les mots, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadre pour plonger. C'est génial.
Son compatriote français, Gary Hunt, laissera lui la fascination de côté pour se concentrer sur son objectif.
Et c'est la médaille. J'ai vu qui sera là, je me sens capable. Mon seul objectif, c'est finir sur le podium.
Et en mettre plein la vue au public qui pourra gratuitement suivre le spectacle depuis les quais de Seine.
Les championnats d'Europe de natation, c'est bien sûr à suivre sur RMC. La Mauricienne Kim Lecour a remporté hier au sprint la 6e étape du Tour de France femme. Place aujourd'hui à l'étape reine. Le peloton va s'attaquer au Mont Ventoux. C'est à suivre à 15h sur RMC. Et le PSG renforce son secteur offensif. Le Monégasque Sakliouche s'est engagé jusqu'en 2031 avec le club parisien. Montant du transfert, 50 millions d'euros. L'OM va vendre son défenseur Medina, 25 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Enfin, Vinicius prolonge de 5 ans avec le Real Madrid. Le Brésilien a su bien négocier son salaire. Il touchera 25 millions d'euros par an.
Clément, si on allait faire un tour du côté de Cabourg, en tout cas c'est là que se disputera le quintet aujourd'hui sur l'hippodrome à 20h15.
Et allons-y, là, le pronostic de la Dream Team des courses nous propose leur favori, le 9 Joker d'Amaro, leur outsider, et le 6 Jockey.
Merci Clément, prochain journal ce sera à 8h. Lionel est avec nous au 32-16. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. On est dans les Alpes de Haute-Provence.
Absolument.
Dans quel coin?
Moustier-Sainte-Marie.
D'accord, Moustier-Sainte-Marie. Et vous roulez au bioéthanol?
Non, pas du tout. Moi, je suis en électrique depuis 5 ans. Mais ma réflexion, c'est le bioéthanol aujourd'hui est quand même constitué d'une très grande partie d'essence E95.
15 à 35%.
Exactement. Et donc, le problème, c'est qu'à un moment, les taxes, on les met pas, ce qui permet d'avoir un prix à la pompe très bas. Mmh. Et demain, l'État, s'ils veulent récupérer leur argent, ils vont augmenter les taxes. Ouais, sachant que l'éthanol coûte plus cher à produire que de l'essence, d'accord.
Mais c'est plus écologique, Lionel, aussi, que du sans-plomb pur et dur.
Oui, bien sûr.
Mais il y a quand même l'aspect écologique dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que on sait. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que nous étions à l'instant avec le patron de Flexfuel, qui est un fabricant de boîtiers bioéthanol. On se focalise beaucoup aujourd'hui sur le prix des carburants, oui. Mais il y a quand même un aspect écologique aussi au bioéthanol.
Oui, non, mais quand on regarde aujourd'hui une voiture essence, on peut plus parler d'une pollution comme elle existait il y a 20 ou 30 ans. Je crois que la solution, si vous voulez, pour le pouvoir d'achat, c'est pas d'avoir des solutions complexes comme le bioéthanol, qui est difficile à compléter. Il faut savoir que l'hiver, il y a plus d'essence parce que avec l'éthanol, ça a du mal à démarrer. Non, la vraie solution, c'est la baisse des taxes sur le 95. C'est tout. Ils savent le faire sur le bioéthanol.
Ou l'électrique, comme vous, Lionel. Peut-être.
Ah ben, oui, oui. Surtout que moi, en électrique, j'ai moins de problèmes à trouver une borne pour recharger ma voiture qu'une station qui est fait de le 85. Parce que dans la région de le 85, on n'en trouve pas. C'est très difficile. Donc, si vous voulez, moi, l'électrique, j'en parle pas. Parce que...
Oui.
On
comprend que sur le bioéthanol, en tout cas, vous avez encore beaucoup de doutes. Merci, Lionel, voilà. D'avoir été avec nous au 32-16, Lionel qui nous appelait depuis les Alpes de Haute-Provence, RMC, 7h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Victor Pourchet est toujours à mes côtés. Victor, pour lire les messages qui nous parviennent sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424 et sur l'application RMC, également sur Direct Studio.
Et notamment sur cette question du bioéthanol. On a Eric qui a un peu le même avis que Lionel finalement et qui nous dit, bah oui, ça semble intéressant, mais à long terme, quand l'État va se rendre compte du manque à gagner, il va rétablir les taxes, j'en suis sûr. On a aussi Hicham qui est passé au bioéthanol depuis 2022. Il a converti sa voiture, il fait le plein et il fait les comptes surtout avec nous. C'est 30 à 40 euros le plein pour 600 km d'autonomie. En gros, nous dit-il, Hicham, c'est du diesel d'avant-crise. On a aussi Dorian qui est passé à l'éthanol il y a 5 ans, avec en plus, il faut le dire, des aides de sa région et de sa ville. Ça ne m'a quasiment rien coûté finalement, nous dit Dorian. Mais attention, attention, parce qu'il nous explique qu'il a eu des problèmes récemment avec sa voiture et que son constructeur n'a pas voulu la reprendre, justement parce que son véhicule était équipé de ces fameux boîtiers bioéthanol.
La vitesse fatigue. Alcool, protoxyde d'azote en août, c'est gros danger sur la route. Week-end de chasse et croisée, 10 millions de Français sur les routes, 341 morts l'an passé sur le mois d'août, c'est le mois le plus meurtrier de l'année. Bonjour Erwan Coiffard, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Gendarmerie Nationale, on se retrouve dans un instant. Malgré la prévention, les sanctions, le nombre de morts sur la route repart à la hausse. Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Vous nous répondez dans un instant sur RMC et RMC Story. Vos témoignages au 32-16, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h43. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. En août, danger sur la route. Erwan Coiffard est avec nous, porte-parole de la Gendarmerie Nationale. Plus de 10 millions de personnes sur les routes ce week-end. C'est un chassé-croisé, c'est rouge demain dans le sens des départs et des retours dans toute la France. Et puis ce constat, le mois d'août, c'est le mois le plus meurtrier de l'année sur les routes françaises. 341 personnes y ont perdu la vie l'an passé sur les routes. Plus largement, la mortalité routière est repartie à la hausse en 2025. Hein, 3515 morts. On peut y ajouter, on va en parler, le fléau en pleine explosion. En pleine expansion, celui du protoxyde d'azote. Ce week-end, à quoi faut-il s'attendre sur les routes et quel est le dispositif mis en place par la Gendarmerie Nationale?
Alors, vous l'avez dit, hein, sur le week-end, c'est près de 10 millions d'automobilistes qu'on va avoir sur nos routes. Vous évoquiez le chiffre de 341 morts en août de l'année dernière. C'était le mois le plus mortel depuis 2011. Donc, on était vraiment sur un phénomène particulier, singulier. On ne veut pas que ça se reproduise. Donc, il y aura une présence sur les routes, évidemment, mais il suffit pas juste d'être présent le jour J, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les instants. Il faut avoir en tête que la gendarmerie fait près de 240 actions de sensibilisation par jour pour sensibiliser à la fois les plus jeunes, les enfants, par le biais par exemple du permis piéton, mais également par des ateliers de démonstration sur les aires d'autoroute. Donc on n'est pas uniquement dans la répression, on est aussi dans la prévention.
Il y a aujourd'hui... un dispositif qui est quand même important, je pense notamment au radar. Voilà, tout le monde s'est rentré dans l'esprit de tout le monde. Malgré tout, vous dites que 341 morts en août de l'année dernière, c'était du jamais vu depuis 2011. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a un relâchement des comportements?
Alors, je pense pas que ce soit un relâchement des comportements, ou en tout cas uniquement. Il y a plusieurs facteurs. Systématiquement, il y a plusieurs facteurs, et c'est la raison pour laquelle commenter des chiffres de sécurité routière est toujours très particulier. Si vous voulez, sur des événements où vous avez 10 millions de personnes qui sont sur les routes, on va avoir des séquences sur lesquelles les voitures sont les unes derrière les autres. Il n'y a pas d'élément de vitesse. Donc on a à la fois un phénomène avec beaucoup de monde, un fort engorgement, et donc ça va potentiellement se répercuter sur le réseau secondaire. On va être sur des plus petites routes. On est aussi sur une période, tout simplement, durant l'été, durant laquelle la consommation d'alcool, vous l'évoquiez, en rapport avec tout simplement le climat, le fait que les personnes sont en vacances, augmente. Donc c'est surtout beaucoup de facteurs et beaucoup de comportements conjugués qui amènent à ces résultats.
On voit des messages de prévention désormais sur le protoxyde d'azote, sur les panneaux autoroutiers. Est-ce que c'est devenu un sujet de sécurité routière à part entière ?
Totalement, totalement. C'est un véritable fléau. C'est le fléau de cette année. C'est un produit qui n'est pas utilisé, qui au départ n'a pas vocation à être inhalé et qui a été utilisé de façon détournée pour le faire. Donc, on était sur des décisions d'arrêtés préfectoraux pour interdire le transport, la détention, parce qu'en fait, on était face à un vide juridique. C'est un vide juridique qui est comblé depuis, à travers ce qu'on appelle la loi Riposte, qui est passée devant le Sénat, puis devant l'Assemblée nationale, et qui permettra dans peu de temps de créer un véritable délit d'inhalation, et donc qui donne des éléments supplémentaires aux policiers comme aux gendarmes pour agir et pour lutter contre. On attend les décrets d'application, tout à fait. On est en train d'attendre les décrets d'application, mais à compter de février, on espère qu'on va pouvoir mettre ça en œuvre.
Bon, vous qui êtes sur le terrain, les gendarmes au quotidien, le provir au protoxyde d'azote, pour y rester sur le protoxyde d'azote, c'est quel type de population ? Parce que j'imagine c'est beaucoup de jeunes, non ?
C'est plutôt jeune, effectivement. On a plutôt affaire à des jeunes.
Donc c'est sur l'aspect festif, gaz hilarant.
On est totalement dans l'aspect festif. C'est exactement ça.
Autre chiffre de cet été, ça c'est une info qui nous est donnée par nos collègues de BFM TV, les cambriolages ont augmenté de près de 6% au mois de juillet. Est-ce que là, encore une fois, c'est un chiffre qui vous étonne ?
C'est pas un chiffre qui m'étonne, évidemment je le déplore. En fait, on fait suite à un premier semestre sur lequel les cambriolages étaient en baisse, et sur la période estivale, tristement, avec tout simplement les départs en vacances, on est sur un des deux pics de cambriolage qu'on connaît dans l'année. Le deuxième, c'est au changement d'horaire à l'arrivée de l'hiver. Voilà, ce sont les deux périodes sur lesquelles on sait, malheureusement, qu'on a des cambriolages qui sont en augmentation. Alors on met en place des dispositifs, notamment un qui s'appelle Opération Tranquillité Vacances, qui est encore trop peu utilisé. C'est seulement quelques dizaines de milliers de personnes qui y ont recours, alors qu'en fait, on a des millions de personnes qui partent en vacances. Donc n'importe quel Français peut se signaler auprès de son commissariat ou de sa brigade de gendarmerie pour donner ses dates de vacances aux forces de sécurité qui vont venir, dans le cadre de leur patrouille, vérifier les domiciles et donc renforcer leur présence aux abords de ces domiciles.
Les gendarmes, on le sait, ils sont également massivement mobilisés actuellement sur les incendies. Vous traquez les incendiaires.
On a renforcé, au même titre que tous les ans, on renforce notre présence en même temps que l'augmentation de la population se fait sur les zones d'affluence saisonnière. On a envoyé plus de 300 gendarmes mobiles dans différents départements, puisqu'on constate un risque incendiaire d'autant plus important. Et donc, on a 330 gendarmes mobiles qui sont déployés dans différents départements, comme les Bouches-du-Rhône, mais aussi les Landes, le Var, la Gironde, pour renforcer notre présence dans les massifs forestiers, à la fois pour veiller à l'application des arrêtés préfectoraux, soit d'interdiction d'accès, soit de restriction, et surtout pouvoir réagir plus rapidement en cas de départ de feu.
En un mot, Erwan Coiffard, porte-parole de la gendarmerie nationale, très très court. Vous êtes le porte-parole officiel de la gendarmerie, donc c'est toujours compliqué de répondre directement comme ça, mais sincèrement, est-ce que la gendarmerie, aujourd'hui, je parle notamment en effectif, a les moyens d'assurer la diversité de ses missions ?
Oui, tout à fait, mais c'est une question de bascule de force. C'est de la même façon que je vous disais, la population augmente l'été sur les côtes. Donc nous, en fait, on fait basculer nos forces depuis des zones dans lesquelles la population est moins présente vers les zones où elle l'est plus. Donc on a ces moyens.
Merci Erwan Coiffard, porte-parole de la gendarmerie nationale, d'avoir été avec nous ce matin sur RMC et RMC Story. RMC, il est 7h50. Dans un instant, le portrait du jour, Victor Pourchet. On parle de qui ?
Alors, duel au sommet du foot mondial. Je vais vous présenter l'ennemi juré du patron de la FIFA.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 7h51, le bonus RMC de Charlène. La chanteuse Carol G sort son nouvel album aujourd'hui.
Un
Un album surprise annoncé en pleine tournée mondiale il y a quelques jours, le titre nommé Arrepiento de sentir tanto en français. Je ne regrette pas de ressentir autant de choses, et à 35 ans, Karol G peut se dire qu'elle a bien fait de persévérer. À ses débuts, elle avait même pas franchi les premières sélections du télécrochet X Factor, et désormais, star du reggaeton, elle multiplie les collaborations Shakira, Bad Bunny ou encore Nicki Minaj. Et sur ce sixième album, elle s'est encore bien entourée, Drake, Bruno Mars. Elle va donc adapter les titres de sa tournée.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h52, le portrait du jour avec vous, Victor Pourchet. Ce matin, vous nous présentez Alexander Seferin. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Seferin,
le patron de l'UEFA, l'instance européenne du foot.
En guerre actuellement avec la FIFA, l'instance mondiale du foot. C'est sous l'impulsion de Seferin que l'UEFA a redit hier que ses fédérations européennes ne participeraient pas à la prochaine Coupe du Monde. Énième coup de pression pour faire abandonner le projet d'ouvrir la compétition à des investisseurs privés, mais qu'il entend, Seferin, désormais poursuivre jusqu'à l'éviction du président de la FIFA, Gianni Infantino.
Bon, on va pas se le cacher, ils n'ont pas l'air d'être les meilleurs amis. Hein,
bon, ce sont là, franchement des adversaires, pour pas dire plus. Si Infantino, le Suisse italien, dit quelque chose, comptez sur le Slovène Seferin pour le dézinguer. Le carton rouge annulé par la FIFA après un caprice de Trump, une ligne rouge franchie. La Coupe du Monde à 64 équipes, une mauvaise idée. Et quand Infantino est en retard à un congrès, parce qu'encore occupé avec Donald Trump, Seferin mène la grève de certains dirigeants, l'accusant de faire de ses intérêts politique privée, une priorité est de vendre le football. Ce sont ces mots. Je pourrais continuer des heures, tous les opposent, même leur manière de travailler. Infantino jusqu'au bout de la nuit, alors que Seferin est réputé attaché à sa vie de famille. Je ne suis la marionnette de personne, dit-il, hormis peut-être celle de mes trois enfants.
Alors qui est-il exactement? Une sorte de Robin des Bois du foot?
Ouais, il a plutôt un physique de méchant dans James Bond. C'est surtout un ancien avocat de 58 ans, devenu un politique très malin, presque un stratège militaire, lui qui a servi lors des guerres en Yougoslavie. Je comprends aussi bien les Européens de l'Ouest que les Européens de l'Est. J'ai des yeux ici et des yeux là, expliquait-il en 2019. Deux ans après, une polémique, une enquête révèle qu'il ne remplissait pas les conditions pour être élu, à l'époque, président de la Fédération slovène de foot. Mais son seul rival s'était retiré, dénonçant une campagne trop sale de Seferin. C'est aussi un aventurier. 5 traversées du Sahara à son actif. Une petite traversée du désert, c'est sans nul doute ce qu'il souhaite à son rival.
Merci beaucoup, Victor Pourchet, RMC 7h54.
RMC,
dans vos villes.
Ouais, tout l'été, des reportages près de chez vous, 4 mois après les élections municipales. On parlait de ce week-end intense de chasse et croisée. Eh bien, on verra sans doute des files de voitures, des bouchons en plein milieu de quartiers résidentiels dans des petites villes. C'est la conséquence de l'utilisation des applications GPS comme Waze, qui nous propose des trajets rapides sans forcément se soucier de ce qu'il y a sur le chemin et autour. Des maires tentent de trouver des solutions face à ce phénomène. Célestin Bougère, vous vous êtes rendu en Seine-et-Marne où la situation est difficile à vivre pour les habitants.
Si je me mets dans la peau d'une personne qui habite à Marne-la-Vallée et qui travaille à Évry, je mets mon GPS et là on m'indique deux chemins différents, un qui nous fait passer par la N104 et un autre qui nous fait passer par la ville de Lieusaint qui nous fait gagner 6 minutes. Je pars justement à la rencontre du maire de Lieusaint, Michel Bisson. Il mène un combat contre Waze depuis plusieurs années.
On m'a affublé de maire anti-Waze. Moi, j'utilise Waze quand j'en ai besoin. Voilà.
Michel Bisson m'ouvre la porte de son bureau et déploie tout de suite une carte.
Waze oriente les véhicules pour sortir de la Francilienne à la sortie 25, pour la rejoindre ensuite à la sortie 27. Donc, on le voit ici, dans une zone résidentielle. Donc, c'est un flux continu de voitures et même un bouchon.
Et c'est ça, du coup, vous avez ça tous les matins?
Presque tous les matins.
On se rend dans ces quartiers résidentiels entre Lieusaint et Tigery. Entre 8h et 9h, une file de voitures interminable se forme ici, dans des petites rues à côté d'une école et d'un collège, et juste devant des maisons avec des habitants exténués.
On est arrivé ici il y a plus de 30 ans. Il y avait 3 voitures qui passaient dans la rue. Aujourd'hui, tous les matins, il y en a plus de 1000. Alors, il y a le bruit, la pollution.
C'est pesant pour moi dans le sens où je suis obligé de décaler mes horaires de travail. J'ai du mal à partir parce qu'effectivement, il y a une file de voitures, donc je suis obligé d'attendre.
Avec le maire, on rentre chez Lucien. Il vit avec sa femme et ses enfants ici. Il pense avoir trouvé la solution.
Après, je peux plus que vous soyez là, mais le sens interdit, sauf riverain,
pourrait marcher. Hein.
Non, on ne peut pas. La seule solution qu'on avait, c'est de mettre en sens interdit de 8h à 9h. On est sur Tigerie. Ben, c'est pas moi de faire, c'est au maire de Tigerie. Ouais, je peux pas, quoi.
On compte sur vous pour continuer à vous battre, mais c'est pas normal.
Et l'unique solution trouvée par le maire, elle se trouve à l'entrée de la ville. Michel Bisson me montre le feu tricolore qu'il a installé. Il s'active seulement aux heures de pointe.
Arrêter la circulation pendant 1 minute 30 à 2 minutes, ce qui est évidemment très long pour un feu, c'est qui permet aux écoliers de traverser, aux collégiens de traverser, aux voitures de sortir de chez elles et aux bus de pouvoir passer.
Sur cette solution-là, vous avez vu quand même des améliorations?
Des améliorations sur le nombre de véhicules traversant, non, en tous les cas pas de manière significative. Des améliorations à travers ces espaces de respiration qui permettent de sortir de chez soi tout simplement, là, oui.
Pour Michel Bisson, c'est à Waze de supprimer ce trajet. Il a contacté récemment les fondateurs de l'application sans succès.
Faire en sorte de ne pas orienter sur des lieux résidentiels, de ne pas orienter à côté d'une école, à côté d'un collège. Nous renverrer le message d'une société où on souhaite que l'humain et l'écologie soient présents à tous les instants de notre vie.
Le maire en appelle aussi à la responsabilité de tous. Il espère que les automobilistes qui passent par sa ville l'entendent et changent par eux-mêmes leur trajet pour aller au travail.
Merci Célestin Bouger. Allez, dans un instant, le journal de 8h et juste après l'écho avec Pierre Rondeau. Pierre, le vélo déraille.
Oui, un gros coup de frein sur les ventes.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC 8h.
RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Clara, à la une, les facteurs de Gironde priaient de faire des heures sup.
La Poste leur demande de rattraper une semaine de travail pendant laquelle ils n'ont pas pu faire leur tournée à cause du méga-feu dans le département. Vous entendrez leur colère. Face au prix du carburant, la demande explose pour le bioéthanol. Information RMC, ces boîtiers à fixer sur le moteur pour rouler avec du carburant moins cher et moins polluant. Et puis l'État prenne de ce Tour de France femme pour la toute première fois. Les coureuses vont gravir le Mont Ventoux.
La colère des facteurs de Gironde, priés par la Poste de rattraper leurs heures perdues à cause des incendies.
Ils n'ont pas pu travailler pendant une semaine alors que les flammes ravageaient le bassin d'Arcachon. Une vingtaine de bureaux de poste a dû fermer, période pendant laquelle les salariés ont été payés à 100%. Mais la Poste leur demande aujourd'hui de rattraper ces heures ou de poser des congés. Marion Gauthier à Sestas, près de Bordeaux, les postiers dénoncent une injustice.
La même indignation à l'entrée du centre de tri, la même colère que laisse éclater Frédéric après 32 ans dans l'entreprise.
Non, là, ils ont été très maladroits, moi je comprends pas. Hein. Notre site était fermé, les axes routiers étaient eux-mêmes fermés. Et puis là, on parle de la Poste, pas d'une simple entreprise commerciale. Il y avait plein de solutions, mais notamment, bien sûr, le chômage partiel. On est dans le moral, oui, ils vont s'appuyer sur la loi. Mais dans la vie, on a le droit d'être grand aussi.
Car la semaine non travaillée a été éprouvante, souffle cette postière évacuée de chez elle pendant l'incendie.
C'est trop. On n'a pas demandé à être évacué, on n'a pas demandé à pas travailler, voilà.
La Poste, elle, a demandé de rattraper 35 heures, puis seulement 14 heures.
Ils sont un peu en train de plier.
Lance Johnny Perret, il est représentant CGT.
Les facteurs ont déjà distribué tout le courrier qui avait été stocké pendant ces incendies malheureux. Mais malgré tout, la Poste conserve ses heures, puisque pour elle, c'est l'opportunité d'avoir des heures gratuites, entre guillemets, qu'elle n'appellera pas en heures supplémentaires, qu'elle ne donnera pas des CDD ou des intérimaires sur des périodes de pic d'activité comme Noël ou le Black Friday.
De son côté, la Poste assure qu'il y a du retard dans les livraisons et que les heures seront rattrapées sur la période à venir. Elle dit accompagner ses collaborateurs et répondre aux besoins des clients.
Reportage de notre envoyé spécial en Gironde, Marion Gauthier. L'Aude, à nouveau victime des flammes hier. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi près de Narbonne, à Montserrat, à cause d'un accident de voiture. Il a été fixé dans la soirée, 100 hectares brûlés. Dans le Var, les jours se suivent et se ressemblent. Les pompiers vont devoir encore être très vigilants face à la chaleur et au vent attendu aujourd'hui. Hier, plusieurs reprises de feu ont pu être contenues, mais le stress, lui, ne retombe pas chez les habitants de Corrance, village durement touché par les flammes.
Tellement surprenant tous les jours, on espère que ça s'arrête et tous les jours ça recommence. On essaye de pas dramatiser quand même, mais voilà, on va essayer de se relever de ça.
Bah ça me fait peur parce que je croyais qu'ils avaient mis l'alarme parce qu'ils devaient vite aller éteindre un feu. J'ai tout le temps mal au ventre, je pense toujours au feu et au risque que ça peut reprendre et tout.
Bah on répond que justement, ils vont sur un feu, un départ de feu pour aller l'éteindre immédiatement pour pas que ça prenne une ampleur monumentale. Et il n'y a pas de raison de stresser.
L'incendie dans la Drôme, lui, a progressé cette nuit de 30 hectares, annonce la préfecture.
Des feux également dans le nord-ouest des États-Unis et le principal suspect est passé aux aveux.
D'immenses incendies dans l'État de Washington, 800 bâtiments détruits, 65 000 personnes évacuées et derrière tout ça, un homme arrêté en début de semaine. Célestin Bougère, il a avoué avoir tout prémédité.
Ah oui, Aaron Farinacci planifiait son geste depuis 2 semaines. Je savais pertinemment qu'il y allait avoir du vent et que les rafales allaient atteindre à peu près 80 km/h. Après avoir fait des recherches sur un célèbre incendiaire multirécidiviste, l'Américain de 37 ans achète du matériel pour déclencher un feu de forêt. Samedi dernier, il allume les flammes à un endroit précis. Je savais que ça allait mal tourner, assure-t-il, tout en reconnaissant qu'il n'imaginait pas que l'incendie deviendrait aussi vaste. Le crâne rasé, Aaron Farinacci se présente hier en tenue de prisonnier devant un tribunal de l'État de Washington au nord-ouest des États-Unis. Sa caution est relevée à 2 millions de dollars. Il dit être fasciné par le feu qui permet, selon lui, une renaissance des choses brûlées. Ce fumeur de cannabis régulier a déjà passé près de 10 ans derrière les barreaux pour avoir tué son père. Il a avoué être à l'origine de 25 départs de feu depuis un an.
Explication de Célestin Bougère pour RMC. Du monde sur la route aujourd'hui, c'est orange dans le sens des départs selon Bison Futé pour le Nord, le Grand Ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Circulation difficile également dans le sens des retours pour le quart Sud-Est. Demain, ce sera rouge partout en France.
Et pour éviter une facture douloureuse en station-service, une alternative a beaucoup de succès actuellement.
Les boîtiers bioéthanol, la demande explose. C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. Le leader du secteur Flex Fuel a vu son nombre de commandes doublé en un an. Le sans-plomb est à 1,99€ le litre ce matin, 2,20€ pour le gazole. Alors avant la route des vacances, de nombreux automobilistes ont sauté le pas, Grégoire Morelli.
Le boîtier, par exemple, pourrait le mettre ici, par exemple. Il ne gênerait pas, on pourrait le passer le faisceau et on serait branché directement dessus.
Ces boîtiers verts, grands comme la main, raccordés au moteur, Stefanovic Darko, propriétaire d'un petit garage à Sarcelles, en installe de plus en plus.
Effectivement, le mois dernier, sur les 7, en moyenne 7 devis, j'en ai installé 4. Mais une forte demande à l'échelle nationale. On s'est retrouvé aussi en rupture de stock.
Une hausse nationale que confirme Flexfuel, leader du marché en France de la fabrication de boîtiers. Son directeur général, Jérôme Loubert, a observé en juillet un doublement d'installations de boîtiers par rapport à la même période l'année dernière, alors que la saison estivale est normalement synonyme de baisse d'activité.
Juillet, habituellement, un mois assez creux. On a même l'habitude, pour tout vous dire, de fermer l'atelier. Ce qui n'est pas le cas cette année. On a gardé une activité pour pouvoir livrer nos garagistes partenaires. Mais cette année, on va poser quasiment 500 boîtiers sur le mois de juillet. On était aux alentours de 250 boîtiers posés l'an dernier.
Et il s'attend à une hausse des demandes dès la rentrée.
On a aujourd'hui une hausse de quasiment x10 sur les demandes de devis dans le réseau. Les garagistes ont un retour très positif et ont déjà beaucoup de pauses prévues pour le mois de septembre.
Comptez entre 600 et 1000 euros pour vous équiper d'un boîtier bioéthanol.
Et justement, témoignage concret dans un instant. Clara sur RMC, Mathieu sera avec nous au 32-16. Mathieu qui a décidé justement de faire passer la voiture de sa femme au bioéthanol.
Le taux de chômage à son plus haut niveau depuis octobre 2020 et la crise du Covid. 8,3% au deuxième trimestre selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Au moins 4 morts en Thaïlande et 15 blessés. Bilan provisoire après une fusillade dans un lycée près de Bangkok. Le tireur est un adolescent. Il a été tué.
Le rappeur Moala Squal de retour devant la justice.
Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal de justice de Paris pour violence volontaire en état d'ivresse et de récidive légale. L'homme de 31 ans était sorti de prison l'été dernier, condamné pour violence conjugale. Julie Brault, cette fois, il est accusé de violence sur 2 femmes lors d'une soirée chez lui à Paris.
Oui, dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, les voisins de Moala Squal, alertés par des cris, préviennent les forces de l'ordre sur place. Les policiers découvrent une femme, le visage tuméfié, qui assure avoir été étranglée et rouée de coups. L'ancien rappeur, alcoolisé ce soir-là, s'en serait pris à elle, la soupçonnant de lui avoir dérobé sa Rolex, selon le parquet de Paris. Une seconde femme, présente au début de cette même soirée, assure avoir été elle aussi giflée. L'homme de 31 ans est depuis placé en détention provisoire, lui, qui est déjà bien connu de la justice. Après s'être retrouvé au cœur du mouvement Balance ton rappeur sur les réseaux sociaux, avant d'être condamné en 2024 à 3 ans de prison ferme pour violence conjugale, séquestration et menace de mort.
Julie Brault, service police-justice d'RMC.
Les coureuses du Tour de France femmes à l'assaut d'un monument français.
Une étape reine aujourd'hui, départ de la Voulte-sur-Rhône et arrivée pour la première fois de l'histoire de ce tour sur un sommet emblématique, Maria Azé.
Oui, peut-être le plus mythique d'entre eux, le Mont Ventoux, indissociable du Tour de France. Clémence Latimier, coureuse de ma petite entreprise.
Je l'ai fait en reconnaissance pour la première fois il y a un mois et quelques. Je savais que c'était majestueux, mais c'est vrai que c'est toujours particulier de monter un col hors catégorie comme ça en course. En plus, avec les spectateurs, les fans qui vont nous porter, ça va vraiment être magique.
Une journée spéciale pour la locale de l'étape, Émilie Morier, leader de Saint-Michel.
C'est la maison parce que mon père, mes parents habitent au pied.
donc je connais quand même un petit peu. Et puis après, ça va être vraiment un full plaisir de monter ce col parce qu'on est entraîné pour ça.
Cette ascension du Mont Ventoux devrait surtout départager les grandes favorites, la maillot jaune, Marlène Reusser et ses poursuivantes au classement général, Demi Vollering et Kasia Debiadoma. Une bataille très attendue par la patronne du Tour de France femme, Marion Rousse.
Et ça va se faire à la jambe, t'auras pas d'aspect tactique, elles vont arriver groupées au pied de la bosse et puis bah, ça sera la meilleure qui ira l'emporter au sommet, puis il y aura des écarts.
Trop loin en classement général, la Française Pauline Ferrand-Prévot pourrait quant à elle sauver son Tour de France en s'imposant au sommet du Mont Ventoux.
Et puis un rendez-vous à ne pas manquer et que vous connaissez sûrement déjà si vous êtes passionné par l'espace. La nuit des étoiles, c'est ce soir jusqu'à dimanche, 3 nuits durant lesquelles le ciel est particulièrement dégagé pour observer au mieux les étoiles. Et ces familles que vous avez rencontrées, Delphine Schiltz, ne compte pas les rater.
Rendez-vous est pris pour Flora dès demain dans un parc de l'Essonne. Première nuit des étoiles pour toute la famille.
On a un tout petit télescope que mon petit a eu à Noël, donc on va l'emmener. Puis l'idée, c'est d'y aller avec notre petit garçon, 5 ans, et qui aime déjà bien l'espace. Il m'a déjà parlé d'aller sur Mars, mais après il a changé d'avis parce qu'il n'avait pas envie de quitter sa grande sœur trop longtemps.
Sergio, lui aussi, est prêt pour la nuit des étoiles. On l'a rencontré dans un magasin de la capitale spécialisé en astronomie.
Pour m'acheter du matériel pour mon télescope, parce que cette année, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder.
Et notamment les Perséides, une pluie d'étoiles filantes observable dès dimanche.
Ah bah c'est merveilleux, apparemment on peut en voir plus d'une dizaine par heure, donc ça risque d'être un bon spectacle.
Mais ce qu'il guette surtout, c'est...
Saturne, vous savez, la planète avec les anneaux, incroyable. On voit très nettement les anneaux, elle est un peu inclinée, exactement comme dans les livres. En plus, on voit ces lunes qui sont un peu écartées, c'est juste magnifique.
Et pour clore ce programme en beauté, Anne-Sophie attend bien sûr l'éclipse de soleil.
On va la regarder ensemble.
Cette année ?
Ouais, c'est dans quelques jours, là.
C'est quoi ?
Le soleil va disparaître derrière la lune.
Un spectacle de 2 minutes à partager le 12 août prochain.
Et pour ça, faudra pas oublier les lunettes pour éviter toutes les brûlures hein, sur les yeux.
Exactement. Merci beaucoup, Clara. Le prochain journal, ce sera à 8h30. Mathieu est avec nous au 32-16. Bonjour,
oui,
Mathieu.
Bonjour. Bonjour.
On est à Longnes, dans le Pas-de-Calais.
C'est ça.
Vous faites quoi dans la vie, Mathieu ?
Je suis conducteur de train.
Mais vous voulez nous parler de voiture, et en l'occurrence de la voiture de votre épouse que vous avez fait passer au bioéthanol.
C'est ça. Oui, il y a à peu près 6 mois. Oui, tout à fait.
D'accord. Ça vous a coûté combien ?
600 euros.
600 euros, pause comprise.
Pause comprise, oui.
Vous êtes content ?
600 euros. Oui, tout à fait. En fait, on a fait ce choix parce que ma femme a retrouvé un travail il y a 6 mois, justement. Mmh. Sauf que pour aller travailler, il fallait 180 km par jour.
Ah ouais ? Ouais,
donc,
ça fait,
J'ai fait un calcul, parce qu'elle touche 1600 euros par mois, avant qu'elle accepte le travail, quand on lui a proposé l'offre, on a fait le calcul, et j'ai dit, écoute, tu vas dépenser quasiment 55% de ton salaire juste pour aller revenir du travail, ça vaut pas le coup.
Et là, vous en êtes à combien?
Bah là, on est à 74 centimes d'euros le litre au lieu de 2 euros et des bananes, là, actuellement. Donc, on est quasiment 3 fois moins cher.
Ouais, il n'y a pas photo, Mathieu.
Donc, on consomme un peu plus. C'est un fait, ça consomme un petit peu plus.
Ouais.
Mais sur le papier, à 74 centimes d'euros, je préfère consommer un petit peu plus. Et là, en termes d'économie, au dernier calcul, on était à peu près à 38% d'économie, quoi.
38%, ouais, c'est énorme. Merci beaucoup, Mathieu, de votre témoignage. Mathieu qui nous appelait depuis Longnes, dans le Pas-de-Calais, au sujet de cette explosion de l'installation des boîtiers bioéthanol en ce moment en France. Dans un instant, les menaces du FLNC, le groupe clandestin, menace de s'en prendre aux non-Corses qui s'installent dans l'île et rejettent le projet d'autonomie approuvé par l'Assemblée fin juin. Faut-il prendre ces menaces au sérieux ? Pourquoi ces déclarations aujourd'hui ? Jacques Folleroux, journaliste au Monde, spécialiste de la Corse, est avec nous dans un instant. À tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h14, une quinzaine d'hommes cagoulés armés de fusils, de pistolets mitrailleurs devant une large affiche du FLNC. C'est l'image d'une conférence de presse clandestine tenue dans un lieu secret à laquelle seul Corse Matin a pu assister. Le message, le projet d'autonomie de la Corse est une mascarade, et message aux non-Corses qui viennent s'installer sur l'île. Restez chez vous, ne vous sentez pas en sécurité sur notre territoire national. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire. Jacques Folleroux est avec nous. Bonjour Jacques Folleroux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de la Corse, auteur de Corse Mafia et Anti-Mafia, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Qui parle exactement dans cette vidéo ? Qui sont ces individus ?
Bah, ce sont les derniers survivants d'une cause indépendantiste qui aujourd'hui est extrêmement minoritaire. C'est-à-dire que je pense que derrière le côté très spectaculaire, on voit évidemment ces images et des déclarations. Je pense que c'est moins une crainte pour les continentaux qu'une volonté d'exister dans un débat politique dont ils ont été largement écartés.
Le FLNC aujourd'hui, est-ce que c'est encore une organisation structurée ? C'est quoi ? C'est un groupuscule ?
Aujourd'hui, si vous voulez, globalement, la clandestinité corse, enfin nationaliste, indépendantiste, aujourd'hui, elle est extrêmement réduite. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous voyez bien, ça, c'est un détail, mais ça veut dire beaucoup, comme dit la chanson. C'est-à-dire que le communiqué, il spécifie bien que ça n'est qu'une, d'ailleurs, on est sur des fractions de fractions. Hein. Et donc là, il y a le FLNC composé en fait de deux structures. Vous avez donc au sein de l'Union des combattants, et il y a une des deux structures qui s'appelle le FNC dit du 22 octobre qui s'est désolidarisée de cette démarche-là. Donc on est vraiment sur, si vous voulez, je pense que c'est vraiment une façon d'exister dans un débat dont finalement ils ont été, enfin, politique insulaire, dont ils ont été écartés par les autonomistes, hein, par d'autres nationalistes, mais qui sont contre la violence.
Du projet d'autonomie là pour la Corse. Ouais.
C'est-à-dire que les nationalistes, en fait, vous avez deux composantes historiquement. Vous avez les indépendantistes qui revendiquaient la violence politique, etc., le recours à la violence, et puis vous aviez les autonomistes qui étaient aussi pour un projet nationaliste, mais qui refusaient le recours à la violence. Et on va dire que depuis 2015, les nationalistes sont au pouvoir. En Corse, c'est eux qui ont les manettes en Corse, hein. Et si vous voulez, au fil d'un certain nombre de d'échéances électorales, les indépendantistes ont été écartés et largement supplantés, battus dans les urnes par les autonomistes.
Malgré tout, ces hommes, ils sont armés. On le voit sur ces images. Ils tiennent des propos très forts. Restez chez vous. Ne vous sentez pas en sécurité. Est-ce qu'il faut quand même prendre ces menaces au sérieux?
Alors, c'est vrai qu'ils disposent encore d'un stock d'armes, c'est évident. Après, sur la violence nationaliste, je pense que c'est aussi une façon, il faut relativiser, il y a un choc un peu, avec un effet d'annonce, hein, ils savent faire. C'est-à-dire que, en termes de communication, ce que je veux dire, c'est que la violence nationaliste, clandestine, corse, elle a rien à voir avec elle a jamais rien eu à voir historiquement, et ça je remonte à la naissance du FLNC, à la fin des années 70, elle a jamais rien eu à voir avec, par exemple, le terrorisme basque, le terrorisme irlandais. Ça a toujours été une violence contenue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une volonté de renverser l'État, etc., etc. C'est plus un terrorisme de harcèlement, pour essayer d'exister et créer un rapport de force, évidemment à l'exception de l'assassinat du préfet Erignac, mais qui n'était pas le fait du mouvement lui-même, hein, du FLNC, mais bien d'un groupuscule de nationalistes en rupture de banc qui voulait au contraire refonder ce qu'ils pensaient être le dévoiement de la cause nationaliste.
Il n'y a pas un Corse, il y a un peuple corse, des Corses, mais aujourd'hui, justement parce que là, ces menaces, elles sont dirigées à l'égard des envahisseurs dont parle le FLNC, les non-Corses. Mais en Corse, les habitants de l'île, aujourd'hui, quelle est leur attitude, leur opinion à l'égard de ce type de mouvement terroriste violent ?
Bah, déjà, si vous voulez, quand même, je l'ai mentionné très rapidement, mais juste rappeler que la Corse, elle est dirigée par des nationalistes depuis 2015. Donc, si vous voulez, et ça fait 11 ans, d'une telle manière que ils ont les outils, les leviers pour défendre l'identité, la culture, l'économie, tout ce qui fait justement la spécificité insulaire. Donc on n'a pas aujourd'hui en Corse un peu comme dans le schéma des années, vous voyez, si je veux dire, les 30 glorieuses, les années 50, 60, 60, même 70, avec un État central ultra jacobin qui impose sa volonté de Paris. C'est pas ça. Et deuxièmement, depuis 2015, donc depuis que les nationalistes sont au pouvoir, je veux dire, vous avez eu une vague de construction immobilière, notamment le tourisme qui a continué de se développer, et surtout une vague de construction immobilière qui était très importante. Donc je veux dire, le reproche fait à l'État le colonisateur, etc., il est un peu décalé par rapport à la réalité. Quant à la violence, vous avez raison de le souligner. Moi, il y a quand même un fait important qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. C'est qu'en 2019, vous avez la création de deux collectifs anti-mafia.
En Corse,
par des Corses.
Ouais.
Ça vient de la société civile. C'est pas quelque chose qui est plaqué de l'extérieur. Donc c'est la société civile corse qui dit, des gens qui disent basta, comme ils disent.
Ouais.
C'est-à-dire que cette violence-là, etc. Et derrière la violence, cette dénonciation de la violence mafieuse, cette emprise en fait sur la vie économique, sur la démocratie locale, sur la vie quotidienne des gens, c'est et bien évidemment une dénonciation en fait de la violence comme privée, hein, pas celle de l'État, comme régulation de la vie sociale. Comme régulation de la vie entre les gens, comme la capacité ou pas d'ouvrir un commerce, comme la capacité ou pas de concourir à un marché public sans que les dés soient faussés ou sans qu'on soit finalement sous pression d'une violence. Et donc globalement, ça intervient à un moment dans l'histoire finalement de la société corse où justement le corps social a presque finalement jamais eu pris autant de distance vis-à-vis de la légitimité du recours à la violence. Et un dernier élément, c'est que c'est dit de façon un peu sibylline, mais dans le communiqué, on voit que le FLNC aussi dénonce la criminalisation, hein, de la cause nationaliste et d'un certain nombre de poursuites judiciaires aujourd'hui engagées contre certains de leurs membres. Le souci, c'est que si on regarde un peu dans le détail de ces cas judiciaires, on voit que il y a un certain nombre de poursuites judiciaires aujourd'hui engagées contre des cadres du FLNC ou de Nation, qui est la vitrine politique du FLNC, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la cause politique.
Merci beaucoup, merci Jacques Folleroux, d'avoir été avec nous, journaliste au Monde, spécialiste de la Corse et auteur de Corse, Mafia et Anti-Mafia, paru aux éditions Robert Lafond. Merci beaucoup, RMC. 8h21, l'écho avec Pierre Rondeau. Pierre Rondeau, notre économiste. Pierre, l'euphorie semble loin. Les ventes de vélos neufs sont en chute libre depuis 3 ans.
Oui, hein, qu'elle semble loin, cette période, Rémi, c'est cette période juste après le Covid, quand on pouvait de nouveau sortir dans les rues et qu'on voulait tous acheter un vélo et faire de longues balades à deux roues. Depuis 2022, les chutes de vélos ont chuté de 34%. Alors qu'il se vendait 2,8 millions de vélos par an en 2022, il s'en est vendu 1 million de moins en 2025. Moins 1 million, oui. Selon les chiffres de l'Union des entreprises sport et cycle, et même l'engouement du vélo assistance électrique semble avoir pris fin. 507 000 vélos vendus en 2025 contre plus de 700 000 en 2023.
Conséquence, Pierre.
Hier, on a appris qu'Acel, premier fabricant européen de vélos, était placé en cessation de paiement et sa filiale française, les cycles Lapierre, qui est une marque très connue dans le milieu, a annoncé plutôt avoir demandé son placement en redressement judiciaire. C'est directement 106 emplois en France qui sont menacés. La bulle du vélo a éclaté. Au moment du Covid, tout le monde a voulu avoir son vélo et les ventes ont explosé, ce qui avait attiré entreprises, revendeurs et réparateurs. Seulement, une fois que le vélo est acheté, il se garde. On n'achète pas un vélo tous les ans. Et surtout, un vélo, ça coûte cher. 1 990 € le prix moyen pour un vélo électrique, plus de 500 € pour un vélo du quotidien, et des prix parfois supérieurs à 2 000 voire 3 000 € pour des vélos de course, même 10 000 € pour certains vélos du Tour de France. Conséquence, un nombre record de fermetures de lieux de vente et de réparation.
Bon, on va peut-être pas retirer tous les couloirs à vélo dans Paris demain, mais est-ce qu'il existe des solutions, des motifs d'espoir ?
Des motifs d'espoir, espérons, oui. Hein. Le marché de l'occasion et du reconditionné sont en plein boom. Le secteur a progressé de 10,5% depuis 2024. Peut-être une solution pour se payer un bon vélo moins cher et changer plus souvent comme la voiture. Les professionnels du secteur font en effet cette comparaison et s'insurgent que les aides à l'achat d'un vélo électrique aient été supprimées en 2025 alors qu'elles ont été maintenues pour les voitures électriques. Un deux poids, deux mesures à l'heure du dérèglement climatique selon eux, parce que oui, le vélo, c'est aussi la mobilité douce comme la voiture électrique.
Merci. Mon vélo.
Bah. On ne pouvait pas s'en empêcher, forcément.
Bah, mon
Pierre.
Vélo.
Bah, mon vélo. Allez, les prix des carburants ce vendredi 7 août, début d'un week-end sur les routes. Alors, de nombreux vacanciers.
Grande nouvelle, grande première, on passe sous la barre des 2 € pour le samplon 95 de litre. On est à 1,997 €. On était
formidable.
À 2,015 € hier. Le gazole à 2,206 €. Le baril, lui, augmente à nouveau. Il y a 83,30 $. Il était à 79 $ hier. Et le gaz, lui aussi, augmente malheureusement à 55,65 €.
Merci beaucoup, Pierre Rondeau, notre économiste. Allez, on va se détendre un peu. Il a pris quelques jours de vacances, mais avant de partir, il nous a laissé des bagages. En l'occurrence, son meilleur, c'est Arnaud de Manche.
Député Emmanuel Duplessis, tiens, je ne connaissais pas celui-là,
un nouveau,
propose d'interdire la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée et de ne plus la rembourser avec les frais de mandat.
Allez,
Voilà, on paye pour que nos députés puissent se bourrer la gueule juste avant d'aller voter nos lois. Mesdames et messieurs, la France.
Pas mal, non? C'est français.
Est-ce qu'il y a un autre métier où tu payes de l'alcool à quelqu'un juste avant qu'il fasse quelque chose de déterminant pour toi? Quand même, Apolline, Gérald, Virginie, si vous avez besoin d'une opération à cœur ouvert et que le chirurgien s'enfile un grand verre de rouge remboursé par la Sécu, vous vous dites, il y a peut-être une arnaque quelque part. Bon, allez, on va s'y mettre. Quelqu'un peut me passer la scie?
Non, non.
Je suis pas endormi, monsieur. Oh, pardon. Bref, quoi. Et alors, il y a un ancien député, Stéphane Vogetta.
Ah, lui non plus, je le sais
pas
bien.
Lui, c'est marrant, il a un nom de perso de Dragon Ball. Stéphane Vogetta. Ça fait marrer que les fans de manga. Et alors, il a protesté sur Twitter, lui. Il a dit, c'est une pensée de perdre la morale. On nous sort l'argument. Oui, le français moyen ne boit pas sur son lieu de travail. Mais le français moyen travaille-t-il de 9h à minuit, comme les députés? J'ai envie de te dire, mais c'est pire. On va pas rajouter l'alcoolémie à la fatigue. En tout cas, je trouve que ça explique vachement bien l'état de ce pays.
Ah oui.
J'ai l'impression que c'est assez récent comme problème. Enfin, je me souviens pas de polémiques du genre dans les années 90. J'aurais adoré, hein, ceci dit, voir Édouard Balladur monter en succubant à la tribune en faisant
« On réponde à madame la députée Simone Veil. Oh, Simone! Simone, elle est bonne, hein?
Oh non.
Simone, elle est bonne! La croissance redémarre comme la chenille, mais des deux pieds en canard. C'est la croissance qui redémarre.
Oh non!
Allez, dans un instant sur RMC, RMC Story, la météo, le journal et puis l'invité d'RMC à 8h45, taxer le tabac pour financer la lutte contre les incendies. C'est l'idée d'un député LR, Yannick Neuder, ex-ministre de la Santé. Colère des buralistes, Serdar Kaya, président de la Confédération des buralistes, est avec nous à 8h45. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz, les habitants du massif des Corbières. Clément replonge dans l'angoisse.
Un an après le grand incendie, 100 hectares ont brûlé hier près de Narbonne, le feu a été fixé. Appel à la grande prudence sur les routes après un mois d'août 2025 meurtrier, 341 morts du jamais vu depuis 2011. Et le PSG s'offre Magnès à Cliouche pour 50 millions d'euros. Et c'est l'heure des explications pour les favoris du Tour de France femmes. Elles attaquent le Mont Ventoux aujourd'hui.
Le massif des Corbières a une nouvelle fois brûlé dans l'Aude.
Un an après le feu ayant ravagé ce massif, un incendie s'est déclaré hier après-midi sur la commune de Montserrat, près de Narbonne. Fort heureusement, les pompiers ont réussi à le fixer. 100 hectares ont brûlé. Et Mathias Luguin, les habitants ont eu très peur.
Oui, ces flammes ont ravivé le souvenir douloureux de l'ogre des Corbières. Un an après, presque jour pour jour, l'incendie avait ravagé 17 000 hectares en 3 semaines et sinistré de nombreuses communes aux alentours. Camille a immédiatement réagi dans sa pépinière à Saint-André de Roquelongue.
On a de suite pris peur, paniqué et on est vite allé là-bas pour tout mouiller et éviter le pire. C'est des angoisses parce que l'ogre des Corbières était juste de l'autre côté l'année dernière. On s'est dit c'est pas possible quoi. On peut pas de nouveau tout perdre comme ça.
Confinés pendant environ 2 heures, les habitants n'ont eu d'autre choix que d'assister impuissants à l'intervention des pompiers. Un combat contre les flammes qui a sidéré Sébastien.
On a eu les 4 canadaires d'un coup. Honnêtement, ça nous a énormément rassurés. C'était impressionnant. On avait un hélico toutes les 2 minutes. Des avions qui passaient dans tous les sens. On se sentait protégé, quoi. Donc, plutôt content. Après ce stress, on va se faire un bon petit repas rosé.
Une vingtaine d'habitations a pu être protégée hier. Et malgré une évolution positive, la vigilance reste de mise dans le massif très sec cet été encore.
Incendie toujours pas fixé dans le secteur de Corrance, dans le Var, mais il ne progresse plus. La vigilance reste maximale. Des reprises de feu ont eu lieu hier, ont été maîtrisées. Et les pompiers se préparent à une nouvelle journée compliquée. Eric Groin, patron des pompiers du Var.
Le travail a été de sécuriser toutes les zones avec des établissements de grande longueur. Ça a plutôt bien fonctionné. Ces établissements sont toujours en place de façon à pouvoir éteindre des reprises ou des fumerolles. Ça sera exactement la même journée. Il faudra être encore vigilant, on se méfie du vent d'ouest, qui est un vent où l'hygrométrie est tombée quand même très bas. Et donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour des réinflammations. On a toujours les moyens aériens disponibles. Et on a encore beaucoup de sapeurs-pompiers qui sont encore présents et qui peuvent intervenir. On est raisonnablement optimiste, mais la vigilance est de mise.
7 massifs forestiers dans le Var interdits d'accès aujourd'hui en raison de risques extrêmes d'incendie, annonce la préfecture. Les pompiers aussi mobilisés dans la Drôme. L'incendie près de Bellegarde-en-Duoy a progressé cette nuit. 270 hectares au total ont brûlé depuis lundi, annonce ce matin la préfecture.
Appel à la prudence sur la route.
Le mois d'août 2025 a été le plus meurtrier du jamais vu depuis 2011, 341 morts. La gendarmerie multiplie les actions de sensibilisation. Et pour Erwan Coiffard, porte-parole de la gendarmerie, invité d'Apolline Matin sur RMC, il y a plusieurs raisons à ces chiffres inquiétants.
Je pense pas que ce soit un relâchement des comportements, ou en tout cas uniquement. Sur des événements où vous avez 10 millions de personnes qui sont sur les routes, on va avoir des séquences sur lesquelles les voitures sont les unes derrière les autres. Il n'y a pas d'élément de vitesse. On a un fort engorgement et donc ça va potentiellement se répercuter sur le réseau secondaire. On va être sur des plus petites routes. On est aussi sur une période tout simplement durant l'été, durant laquelle la consommation d'alcool en rapport avec le climat, le fait que les personnes sont en vacances, augmente. Donc c'est surtout beaucoup de facteurs et beaucoup de comportements conjugués qui amènent à ces résultats.
Et si vous êtes sur les routes aujourd'hui, c'est orange dans le sens des départs, sur le quart nord-ouest du pays, en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange également dans le sens des retours sur l'arc méditerranéen et les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le chômage en hausse en France, il a augmenté de 0,2 points au deuxième trimestre et atteint 8,3%, son plus haut niveau depuis l'automne 2020, chiffre publié ce matin par l'INSEE.
Nouvelle alerte autour de l'antivirus.
Un voyageur qui transitait par la France a été testé positif à cette souche des Andes, annonce le ministère de la Santé. Une enquête a été ouverte pour retracer les étapes de son voyage, Alexandre Thibault.
Il s'agit d'un touriste franco-argentin qui était en vacances en France les deux dernières semaines de juillet, puis il a continué son voyage dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice, où il est actuellement en auto-isolement. Il va bien, nous dit le ministère de la Santé, il n'est plus symptomatique et ses proches ne présentent pas de symptômes à ce stade. Ce qui se passe maintenant, c'est la recherche des éventuels cas contacts qui ont côtoyé de près ou de loin cet homme. Sont ciblés la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et l'Île-de-France, trois régions où il s'est rendu pendant son séjour. Alors les autorités se veulent plutôt rassurante, hein. On n'est pas dans le même cas que la croisière du MV Ondius, puisqu'il s'agit d'un cas isolé qui a de faibles symptômes. La charge virale est faible, ce qui implique donc moins de risques de transmission.
Enquête ouverte par le parquet de Paris après des soupçons d'ingérence russe visant Raphaël Glucksmann. Objectif vérifier s'il a bien été la cible d'une opération de déstabilisation menée par un groupe pro-russe. Édouard Philippe, Gabriel Attal ont également été ciblés ces derniers jours par ces opérations de déstabilisation.
Une nouvelle recrue pour le PSG.
Le club parisien renforce son secteur offensif. Le monégasque Magnès Akliouche s'est engagé jusqu'en 2031, Nicolas Pelletier.
J'ai hâte de porter ce maillot et de continuer à progresser. Voilà les premiers mots du nouveau milieu de terrain parisien lors de son officialisation hier soir. L'ancien monégasque était arrivé à Paris plus tôt dans la journée où il a passé sa visite médicale et signé son contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Dès ce matin, Magnès Akliouche, qui portera le numéro 11, va découvrir le campus PSG, sa nouvelle maison, pour son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Le champion d'Europe a déboursé 50 millions d'euros pour s'offrir les services de l'international français, auteur de 43 matchs la saison dernière avec l'AS Monaco. Le défi s'annonce relevé pour le joueur de 24 ans, originaire de la Seine-Saint-Denis et qui peut franchir un cap avec le PSG où l'exposition est toujours plus importante.
Et l'OM va vendre son défenseur Medina, 25 millions d'euros. Bayer Leverkusen, Vinicius lui prolonge de 5 ans avec le Real Madrid.
Mais Clément, les jambes vont souffrir aujourd'hui sur le Tour de France Femmes.
7e étape aujourd'hui, le peloton s'attaque au Mont Ventoux, un sommet mythique où le spectacle risque d'être au rendez-vous entre les favorites.
Ouais, ça représente tout ce qu'on fait depuis le début du Tour de France Femmes. Toujours des arrivées mythiques, toujours des moments importants. Je pense qu'il y aura quand même les conditions climatiques qui vont beaucoup influencer la montée du Ventoux. On annonce beaucoup de vent, le vent peut changer très vite de direction en montagne. Donc c'est ça qui va être le plus important, ce sera le premier long effort. C'est un Tour de France difficile mais très punchy, avec des montées quand même largement inférieures à ce qu'on va avoir. Donc on peut avoir des grosses surprises.
Intégral Tour de France, femmes, c'est à suivre dès 15h sur AMC.
Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Cabourg, ce sera à 20h15.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori, le 9, Joker d'Amaro, leur outsider, le 6, Joker.
Merci beaucoup Clément, prochain journal, ce sera à 9h. Ludovic est avec nous au 32-16. Bonjour Ludovic.
Oui, bonjour l'équipe RMC.
On est en force ce matin dans le Nord. Là, on était dans le Pas-de-Calais tout à l'heure, on était à Lille, on est re dans le Nord, on est à Saint-Amand-les-Eaux.
Oui, c'est ça.
Saint-Amand et son casino, Ludovic. Vous faites quoi dans la vie, Ludovic?
Je suis prestataire sur Paris.
Et vous voulez nous parler du bioéthanol?
Oui, tout à fait. Alors moi,
parce
j'ai
que je rappelle dans le contexte, juste, on a, c'est une info RMC, les ventes de boîtiers bioéthanol explosent, notamment chez le leader français Flexfuel. Vous êtes équipé au bioéthanol?
Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas de boîtier parce que mon véhicule ne s'y prête pas. Parce qu'il faut bien savoir que les boîtiers éthanol fonctionnent pas sur tous les véhicules.
Hein, oui, essence et hybride, ouais, essence.
Bah, essence principalement, bien sûr, il y a que les essences. Mais il faut savoir que les voitures allemandes, parce que j'ai une allemande, ont beaucoup plus d'électronique embarquée. Et du coup, les boîtiers ne sont pas du tout adaptés.
D'accord.
Donc, je me suis dirigé vers une autre solution, qui était celle de programmer le moteur, qui n'est pas vraiment légal.
C'est ce que j'allais vous dire, attention, parce que c'est pas forcément légal, donc ça veut dire que c'est illégal. Mais surtout, si vous avez un pépin avec le moteur, la garantie, constructeur terminé.
Ouais, mais mon véhicule, il a 16 ans, vous savez, il n'est plus vraiment garanti, d'accord. Il a 260 000 km, donc après, voilà. Le fait qu'il n'y ait pas cette légalité, ça n'empêche que tous ces reprogrammateurs font de la publicité, ils ont pignon sur rue et on ne leur dit rien. Ouais, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire.
Une autre question, Ludovic, si j'avais votre assurance assurance auto.
Oui.
Ça fonctionne même si vous avez...
Ah bah elle est pas au courant hein. Non, elle est pas au courant. Après bon bah s'il m'arrive un pépin voilà, bon de toute façon le véhicule il a 16 ans, si on me le cartonne il sera bon pour la casse. Par contre, il y a une autre anecdote, c'est que la première fois quand je l'ai passé, au contrôle technique, le véhicule a été refusé parce que il ne polluait pas assez. Et là, je suis tombé des nues, je dis mais comment ça, je comprends pas. Et en fait, c'est parce que quand on passe son véhicule, il doit être dans les tolérances constructeur.
Oui, je comprends. Mais alors comment vous avez fait pour le contrôle technique? Vous l'avez le contrôle ou pas?
Oui, alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai repassé le véhicule au sans-plomb 95.
Ah
oui,
voilà.
Oui. J'ai roulé pendant un petit moment avec, j'ai fait la contre-visite, et puis après, le véhicule est passé, quoi.
Bon. Ludovic, merci pour votre témoignage. Après, on peut pas, vous l'entendrez, Ludovic, inciter à rouler avec une voiture qui est dans l'illégalité d'un point de vue motorisation. Mais merci de votre témoignage, Ludovic. Merci d'avoir été avec nous depuis Saint-Amand-les-Eaux au 3216 sur RMC, RMC Story, RMC 8h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Victor Pourchet, des messages légaux, j'espère.
Oui, c'est plutôt l'ambiance sur le WhatsApp RMC. On a d'abord Stéphane qui nous dit, et ça fait bientôt 2 ans que je suis passé à l'éthanol. Pas besoin de boîtier, nous dit-il. Donc, pas forcément légal non plus, j'allais vous dire. J'ai pas forcément pris le bon message. Mais qui nous dit qu'il a quand même fait un gain énorme sur son plein. On le rappelle, évidemment. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a d'autres messages. Cette fois-ci, légaux, je vous l'assure. Avec une question de Daniel qui dit, bah oui, mais c'est la grande question. Une fois que tout le monde sera passé en voiture, soit électrique, soit éthanol, soit tous les carburants qui sont un peu moins chers, le gouvernement n'ira-t-il pas chercher de l'argent pour compenser ces taxes qu'il ne perçoit pas encore? Effectivement, c'est toute la question. Et puis, on a Sébastien qui nous dit qu'il est déjà équipé de boîtiers sur ses voitures depuis plusieurs années. Il nous rappelle qu'il y a des petits désagréments, c'est vrai, mais pour lui, le jeu, évidemment, en vaut la chandelle au vu des économies qu'il fait à chaque plein d'essence.
Merci Victor. Dans un instant, c'est le choix de la rédaction au cœur des Vosges. C'est Ibiza. Défaite à non plus finir avec les locations touristiques qui pourrissent la vie des habitants. Les élus, les riverains se mobilisent. C'est dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC 8h42, tout de suite, c'est le choix de la rédaction. Des fêtes incessantes avec leur lot de nuisances en tout genre. Ce n'est pas la réalité parisienne, lilloise ou marseillaise, mais bien celle que dénoncent des habitants de la Bresse ou de Gérardmer au cœur des Hauts-de-Vosges. Alors cette semaine, riverains et élus ont décrété symboliquement des zones de quiétude pour les résidents permanents, comme dans les parcs naturels pour les animaux. Lucille Pascanet est allée faire un tour au lotissement des Huttes à la Bresse pour RMC.
Les dernières vis et l'immense banderole rouge est prête à être installée par Annick Vaxeler et ses voisins. Dessus, en lettres capitales, zone de quiétude, résident permanent. Un message pour les locataires des grands chalets juste à côté, trop souvent fait tard.
On leur prévient qu'ils sont à côté de maisons avec des résidents permanents et qu'on souhaite vraiment qu'ils utilisent leur location de manière vertueuse.
Cet après-midi, pourtant, la quiétude règne bien. On entend les oiseaux chanter, mais elle ne durera plus longtemps puisque de la musique et des cris résonneront bientôt.
Je vous invite à repasser dans les
les nuits futures, vous verrez que c'est compliqué.
Annick vit dans ce lotissement depuis les années 2000, mais depuis 8 ans, elle ne dort plus. Sa terrasse donne sur un chalet à louer.
Bamboula, 23, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. On a énormément d'anniversaires. À chaque fois, je pourrais vous dire les âges. C'est des nuits compliquées pour aussi les enfants. Ça impacte fortement notre santé. Et ça, on ne peut pas dire que l'été, parce que c'est toute l'année. On arrive à un point où c'est difficilement supportable.
La vingtaine de résidents permanents de ce lotissement a fondé un collectif en 2024 pour agir avant que certains épuisés ne quittent le quartier.
Plus le temps passe et plus les nuisances montent en puissance.
Pascal Munier a construit sa maison ici il y a 25 ans.
On a des voisins qui envisagent de partir. D'autres qui l'ont déjà fait, qui ont déjà vendu leur chalet et où il faudrait bien réfléchir parce que ces chalets sont vendus à nouveau à des gens qui font de la location et donc la nuisance s'accentue encore.
Pour tenter d'enrayer ce cercle vicieux, cette semaine, ils ont été reçus par le maire Pierre Mangin, en même temps que des sénateurs, le député des Vosges et des édiles des stations touristiques alentours, comme Gérard May.
Ce qui était important, c'était déjà d'envoyer un message à la fois aux riverains pour leur dire que c'est un problème qu'on prend à la mesure de ce qu'ils vivent, aussi aux loueurs de gîtes de grande capacité, comme quoi eux aussi, ils ont une responsabilité pour conserver une destination qui sait accueillir. Et puis ensuite, un message pour dire on a envie d'agir en commun, on a déjà avec d'autres communes et on va le faire ensemble et on y met les moyens.
Le premier pas, c'est maintenant de collecter des données, de mesurer les nuisances grâce à un kit riverain pour formuler ensuite des propositions et aboutir peut-être à de nouvelles règles.
Merci Lucille Pascanet. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Un fumeur sur 5 jette son mégot par la fenêtre sur l'autoroute. Le député LR Yannick Noder propose de taxer les industriels du tabac pour dégager plusieurs centaines de millions d'euros au profit des pompiers et du reboisement. Cédar Kaya, président de la Confédération des Buralistes, est avec nous dans un instant. Pas du tout d'accord avec cette idée. Vous nous dites, il va nous dire pourquoi dans un instant et vous réagissez au 32-16 sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 8h47, 120 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année. Un constat implacable, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et un fumeur sur 5 reconnaît encore jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Alors le député LR de l'Isère, Yannick Noder, ancien ministre de la Santé, propose une loi pour taxer les industriels du tabac. L'objectif, c'est de dégager 350 millions d'euros destinés au reboisement et à l'équipement des sapeurs-pompiers qui en manquent. Serdar Kaya est avec nous. Bonjour Serdar Kaya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Confédération des Buralistes. Cette proposition de Yannick Noder, elle ne passe pas du tout pour vous. Pourquoi ?
Elle ne passe pas tout simplement parce que, encore une fois, dès lors qu'il y a une situation qui est compliquée, la première des causes, c'est le tabac. C'est une taxe supplémentaire qui, aujourd'hui, aura un impact terrible pour le réseau des buralistes. Moi, je dis tout simplement que à chaque fois qu'il y a une difficulté, nos politiques ont la solution, c'est de créer une nouvelle taxe. Une nouvelle taxe pour essayer d'endiguer peut-être ces incendies qui nous ont fait beaucoup de mal, beaucoup de tort et qui fait aujourd'hui beaucoup de mal aux Français. Moi, je dirais plutôt travaillons en pédagogie. Déjà, le tabac est taxé à près de 80%. Aller taxer encore plus un produit qui, aujourd'hui, est en chute libre dans les ventes, parce qu'on peut très bien se dire aujourd'hui que une cigarette consommée n'est pas forcément une cigarette française, ça peut être une cigarette de contrebande ou de contrefaçon, ou une cigarette espagnole. Donc là-dessus, il faut avoir une certaine forme de lucidité. Une taxe supplémentaire ne trouvera pas la solution aux problématiques climatiques que nous avons actuellement. Moi, je propose tout de suite aux députés de travailler ensemble pour dire trouvons de la pédagogie, parce que déjà, le réseau des buralistes, avec une écotaxe, contribue à près de 80 millions d'euros par an. Utilisons pleinement le dispositif qui existe déjà.
Serdar Kaya, une remarque tout de même. Ce que propose ce député LR, c'est de taxer les industriels, pas directement les paquets de cigarettes. Mais vous, ce que vous craignez très concrètement, c'est que les industriels répercutent, si cette taxe existait, cette taxe sur le prix de vente.
Évidemment, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, le levier fiscal ne peut plus être, on va dire, absorbé par le fabricant. La seule personne qui sera répercutée par cette nouvelle taxe, ça sera encore une fois la personne honnête qui travaille quotidiennement dans son commerce, c'est-à-dire le buraliste qui, lui, essaie de trouver des solutions pour pouvoir... Le consommateur, lui, trouvera ses cigarettes autrement désormais, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un marché parallèle qui est tellement fort en France, le plus élevé d'Europe, que le consommateur, lui, trouvera ses solutions autrement. La seule chose qui reste à trouver, c'est de trouver un avenir pour le réseau des buralistes, parce que nous sommes tout de même 22 500. Je vous rappellerai juste que la semaine dernière, le buraliste a couché en Côte d'Or, a été volontairement réquisitionné pour soutenir les pompiers, pour les accompagner, parce que c'est encore le rare commerce de proximité qui peut rendre service aux pompiers dans les territoires parfois les plus reculés.
Serdar Kaya, malgré tout, alors encore une fois, je me fais l'avocat du diable, si l'on veut, oui. Mais je me mets du côté de cette proposition qui est faite par le député LR. Les industriels du tabac vendent un produit qui n'est pas anodin. La cigarette, elle a une implication, par le comportement de ceux qui fument, hein, mais elle a une implication dans les incendies, dans un certain nombre d'entre eux, en tout cas. Donc forcément, moi je vends un produit qui est dangereux, je dois en subir les conséquences.
Mais évidemment, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, elle est déjà tellement importante. Donc, les conséquences sont déjà fiscalisées. Mmh. La seule chose sur laquelle il faut être d'accord, c'est que, évidemment, que, une personne sur cinq a ce mauvais geste de jeter ce mégot par la fenêtre. Là-dessus, il faut continuer à travailler avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'explications. Les gens sont de plus en plus sensibles aux messages que l'on passe. C'est pour ça qu'avec l'Entente Valabre, avec la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, avec la Confédération des Buralistes, avec Alcom, cette éco-contribution qui existe depuis quelques années, on travaille pour des messages de sensibilisation. Chez chaque buraliste, régulièrement, dans des événements majeurs, nous distribuons des cendriers de poche. Nous faisons des messages de prévention à travers les réseaux sociaux et aussi dans nos commerces. Évidemment, le consommateur qui achète les cigarettes chez lui nous sera informé. Celui qui achète sur le marché noir, évidemment, ne sera pas informé et il n'aura pas ces messages de prévention. Moi, je dis qu'on a 80 millions d'euros à utiliser tous les ans qui sont déjà sous forme de taxes et par la contribution des consommateurs. Mmh. Utilisons ces messages de prévention comme on sait le faire. Pas énormément en France, parce que je pense qu'en France, la meilleure des solutions, c'est toujours de taxer les consommateurs ou toujours de taxer les citoyens et les citoyennes. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une chose qui est réelle aussi. À quelques mois de la présidentielle, les Français en ont ras-le-bol d'avoir ces propositions de taxes en permanence. Je dirais juste une chose aussi à monsieur le député. Nous sommes 22 500 buralistes avec 10 millions de clients par jour. S'ils ont besoin de nous rencontrer, qu'ils viennent, parce que nous rencontrons les Français tous les jours dans nos commerces. Nous avons aussi nos messages à faire passer.
C'est à quelques mois des présidentielles. Oui. En tant que représentant des buralistes, est-ce que vous avez l'impression que les buralistes, à chaque fois, payent pour tout et pour tout et n'importe quoi?
Oui, complètement. Mmh. Je pense qu'on est assez utile pour rendre service à la population en permanence, mais une fois qu'il y a quelque chose, tous les maux du pays passent essentiellement par des taxations. Et vous savez, le premier commerce qui est ciblé par la fiscalité est le réseau des buralistes. Je rappellerai que nous faisons 40 milliards d'entrées par an avec 20 milliards d'euros de fiscalité.
Merci beaucoup, Serdar Kaya, d'avoir été avec nous. Président de la Confédération des Buralistes, merci d'avoir été avec nous sur RMC et RMC Story. Allez, pour conclure, on va au 32-16 retrouver Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On est dans les Landes.
Oui, c'est ça.
On est où dans les Landes, Nathalie?
À côté de Dax.
D'accord. Vous faites quoi dans la vie?
Je suis assureur.
Très bien. Et vous voulez nous parler du bioéthanol?
Oui, c'est ça, parce que j'entendais l'intervention tout à l'heure d'un monsieur qui vend des kits bioéthanol.
Oui, le patron de Flex Fuel, ouais.
Ouais, voilà, qui a alerté sur le fait qu'il fallait faire attention à qui on faisait confiance pour installer ce type de kit.
Oui, il faut être homologué, il faut que ce soit un installateur homologué, c'est ce qu'il nous disait.
Voilà. Au risque, effectivement, que les assureurs, en cas d'accident, ne paient pas.
Ah oui, on en parlait avec Ludovic. Voilà, il faut faire très attention. Tout à l'heure, avec Ludovic, autour de
ça. En fait, voilà. Et il y a un changement de carte grise sur l'énergie. La carte grise doit être modifiée.
D'accord. Donc, je le fais pas de manière légale. Voilà, je bidouille. Oui. Pour dire les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas de carte grise qui soit modifiée. Si j'ai un accident, quel qu'il soit,
eh ben le véhicule n'est pas le bon.
Quel qu'il soit.
Donc
Ah oui, demain je me fais accrocher. Demain je me fais emboutiller.
Alors quel qu'il soit, il faut qu'il y ait quand même un contrôle. S'il y a une expertise de véhicule, l'expert va voir qu'il y a un kit installé.
Et c'est pas être une sorte de vis de forme.
Eh ben en fait la carte grise n'est pas conforme parce qu'elle doit être modifiée dès lors qu'on installe un kit. C'est pas rien. Trouve que par rapport au nombre de gens qui en installent, moi-même, j'ai eu affaire à des clients qui me déclaraient en avoir installé, mais sans savoir qu'il fallait nous le déclarer et changer la carte grise. Donc, je leur ai fait faire en urgence. Mais en fait, par rapport au nombre de gens qui en installent, très peu de gens nous le signalent. Donc, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui doivent rouler.
C'est important ce que vous nous dites, Nathalie, parce que même si je fais installer mon boîtier bioéthanol, voilà, chez un installateur homologué, fais changer ma carte grise. Tout va très bien, mais il ne faut pas oublier de le signaler à l'assureur.
Oui, voilà. C'est un changement, c'est une modification du type du véhicule. Voilà.
D'accord, c'est plus le même véhicule. Voilà.
C'est plus le même véhicule, donc il faut le signaler. Important.
Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous en 32-16 et merci pour ces précisions. Très pratique, Nathalie, qui nous appelait depuis les Landes. RMC, dans un instant, ce sera la météo, le journal de 9h. Et puis ensuite, le meilleur des grandes gueules. Et nous, dans Apolline Matin, on se retrouve lundi dès 7h jusqu'à 9h. Bonne journée à tous et bon week-end d'avance.